Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens vont penser que c'est pas vrai. Florentino vient de m'envoyer un message du mariage de Ramos avec une vidéo de ses retrouvailles avec Beckham. Je vous jure que c'est vrai.
Fabinho qui est moins la lance de lancement, la rampe de lancement.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot qui est on joue comme on s'entraîne.
Évidemment.
Est-ce qu'on donne les clés du wagon à la locomotive à Malinovski?
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, bienvenue dans Génération After spécial Drôle de Dame. Comme tous les lundis, 20h-22h, le foot, la musique, la culture des quatre grands championnats. Avec pour l'Angleterre, Julien Laurence. Salut Julien.
Salut Thibaut, salut à tous.
Pour l'Allemagne, Polo Breitner est là. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Thibaut, bonsoir tout le monde.
Pour l'Espagne, Fred Hermel, salut Fredo.
Hola chicos.
Et pour l'Italie, Johan Crochet, salut Johan.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes en pleine forme les gars?
Ah ouais.
Ouais,
ouais, c'est l'automne, mais je sais pas, j'ai de l'énergie là.
Ouais. Ok.
Ah bah, ça va être juste ski moi, donc quand tu commences à pleuvoir, je suis dans mon élément quoi.
Ah ouais, alors que toi, l'automne en Allemagne, Polo, non, ça t'inspire moins.
Ouais, je l'ai dit, hein, moi, il dit que j'étais en forme, mais j'ai dit dès que l'Alpe d'Huez va arriver, je vous laisse passer.
Et là, c'est le pied?
Ouais, là c'est le pied, là c'est bon, j'ai tracté tout le monde, c'est bon.
Bon, il reste deux heures à donner, Polo. On est en direct jusqu'à 22h avec vous tous. Et justement, votre programme en 15 secondes, Julien.
On va parler du grand match hier, enfin du meilleur match du week-end entre Brighton et Tottenham. Un match pur Premier League, si vous voulez. On va parler d'Erik ten Hag. Je sais qu'on le fait souvent, malheureusement, pour tous les auditeurs qui sont ni supporters de Manchester United ni des fans de ten Hag. Mais on est encore obligé de le faire parce qu'il est au cœur de l'actualité. Et puis on aura une petite minute très sympa sur la précocité. Je sais qu'il y en a pas mal sur le plateau qui, souvent dans certaines situations, sont un peu précoces. Bah là, ce sera un petit clin d'œil à eux aussi.
Pourquoi tu rigoles, Fredo?
Parce que Julien l'amène d'une manière merveilleuse.
Oui.
Tu vois, sous ses airs, toi, je le touche à rien, il te balance des trucs comme ça. Que si moi je le dis, je me fais croquer.
Envoyez-moi les adresses.
Tiens, Fredo, justement, ton programme en 15 secondes.
Eh bien, bien sûr, on va parler de la polémique. Non, mais Mbappé, le Real, le rapport du Real avec les sélections nationales, avec ce qu'on appelle en Espagne le virus FIFA. Donc on va discuter de ce qui se passe. Et puis je vais me poser la question aux copains là. Quels sont les rapports de vos différents clubs avec le football international et ces breaks qui font du mal. On va parler aussi de la revanche de deux joueurs du Barça qui explosent tout depuis le début de la saison, Rafinha et Lewandowski.
Johan, ton programme ce soir?
On va évoquer le Napoli en tête évidemment de la Serie A. Et un Napoli qui est séduisant par les résultats, pas encore tout à fait au point au niveau du jeu, mais en tout cas qui a retrouvé son agressivité, sa hargne, son caractère. Et c'est évidemment sous Antonio Conte que ça se passe. On va parler des liens entre mafia et virage, des tribunes italiennes, beaucoup de choses à expliquer aujourd'hui. Et puis une petite minute en forme de duel italo-argentin.
Et enfin le programme de Polo.
Ergebnis crise, la crise de résultats du Bayern Munich, est-ce que c'est grave docteur? On va s'intéresser évidemment à cette question, d'autant plus que la presse allemande, après avoir dormi pendant un mois, commence à se réveiller sur les prestations bavaroises. Deuxième sujet qui me semble important, on va le traiter en même temps, le Borussia Dortmund dramatique en première mi-temps à Union et Leverkusen qui mène tranquillement 2-0 avant de se faire remonter contre un promu. Et puis une petite minute pour une histoire, pour un nouveau stade qui va voir le jour en Bundesliga.
Et à 21h45, comme tous les lundis, c'est votre moment. Les drôles de dames vous appartiennent. Elles sont face à vous. Vous nous appelez au 32-16. Vous avez une question. Et les drôles de dames tâcheront d'y répondre. Donc tout au long de l'émission, n'hésitez pas. Le 32-16 et 21h45, les drôles de dames sont à vous. On est en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. N'hésitez pas à venir nous voir et commenter votre soirée foot. Je salue notamment Judy Kell qui nous écrit. Mes sincères salutations à Johan. Je t'attends au tournant sur ton choix de musique. Moi aussi. Et le qui écrit la retraite d'Iniesta, Fred. Il en sera peut-être question ce soir.
Surprise.
Il en sera
à votre avis.
Totalement question ce soir. Et à partir de 22h sur RMC, ce sera l'after avec Nico Jamin ce soir.
Sucette à la main.
Sucette à la main, bien sûr.
Non, mais c'est mon dessert. La vraie, l'espagnole.
La choupa.
Ouais, choupa choup.
Choupa choup.
Choupa choup, c'est espagnol. C'est espagnol.
Ceux qui sont sur YouTube qui la voient.
C'est un catalan qui, dans les 60, s'est rendu compte que les enfants avaient du mal à manger les bonbons parce que voilà, ils savaient pas où mettre les dents. Et il a dit, je vais mettre un petit bâton. Et tu sais ce que je veux dire, choupal.
Bah
tu sais.
Mais tu sais, oui.
Voilà.
Okay. C'est une expression en espagnol un peu moins heureuse.
Choupal. Bah non, choupal.
Ouais, oui.
Non, tu passes, c'est succès, donc on juste la
succès. Fred, il est incroyable, tous les sujets.
Mais je suis désolé, les Espagnols ont fait plein de trucs.
C'est une encyclopédie. Oui, ce soir, dans l'after, les amis, on va bien sûr revenir sur la décision de Mbappé ou celle de Deschamps de laisser Mbappé à Madrid malgré les deux matchs de l'équipe de France. Est-ce que vous trouvez que le sélectionneur était trop permissif avec le Real et avec Kylian Mbappé? Flo Gautreau sera là également ce soir. Il veut parler de Monaco. Monaco, il estime que c'est le cocktail parfait pour embêter, voire plus, le Paris Saint-Germain cette saison. Daniel veut parler de Marseille. Il a pris une gifle, comme il le dit, vendredi après le nul, un partout face à Angers. Très déçu par le rendement de l'équipe de Roberto De Zerbi. Et puis, on parlera également de Lyon. Pierre Sage a-t-il pris la mesure de son effectif très large? C'est au programme de l'After dès 22h.
Merci Nico. À tout à l'heure. L'After, 22h, minuit. Et juste avant de parler du Real, de Mbappé et des sélections, un grand joueur nous a quitté aujourd'hui. C'est la Fédé néerlandaise qui a annoncé la mort de Johan Iskens, 73 ans, milieu de terrain mythique de l'Ajax, notamment des Pays-Bas, vainqueur de la C1 trois fois, finaliste des Coupes du Monde, 74-78, fidèle lieutenant, comme on l'appelle souvent, de Johan Cruyff. C'est un joueur qui vous inspire, que vous avez connu, Polo?
Moi, c'est pas ma zone normalement les Pays-Bas.
Oui, mais c'est ton époque.
Bien sûr, enfin, si tu veux, je vais dire ça d'une façon très simple. En 1951, Niskens naît, Breitner naît. Au mois de septembre de cette même année, Breitner naît, Niskens naît. Niskens a commencé sa carrière en tant que latéral droit. Paul Breitner a commencé sa carrière en tant que latéral gauche. Ce sont deux joueurs monstrueux, complètement oubliés des ballons d'or, parce que ce sont des joueurs en fait polyvalents. Aujourd'hui, on dirait box-to-box. C'est des joueurs qui ont évidemment évolué l'un et l'autre, et l'un contre l'autre, au Real contre le Barça. Et ce sont deux monuments du football qui n'ont pas de joueurs comparables dans l'histoire du foot, tellement ils sont puissants et qu'ils peuvent jouer à tous les postes. Donc ce sont vraiment des joueurs polyvalents. Aujourd'hui, on dirait box to box pour faire moderne, mais c'est des joueurs qui étaient exceptionnels à ce niveau-là. Donc Niskens qui part, j'ai presque envie de dire, il avait juste un seul défaut, c'est d'être néerlandais. Mais là, c'est quelque chose d'assez monstrueux. Et moi, j'accepte pas qu'on dise que c'était le lieutenant de Johan, ou qu'on dise l'autre Johan aussi. Moi aussi, j'utilise cette expression. Tellement il était impressionnant, parce que l'Ajax n'aurait jamais pu exister si Johan Niskens n'avait pas existé, parce qu'il fallait un entraîneur, Rinus Michels évidemment, il fallait un grand joueur créateur, c'était Johan Cruyff, et il fallait quelqu'un qui bouge tous les trous, qui fasse tout le boulot, y compris technique et pour ratisser les ballons, c'était Niskens. Donc voilà, on vient de perdre un monument du foot.
Bah, merci Polo pour, j'allais dire, pour ce parcours que les plus jeunes peut-être ne connaissent pas, ou moins, et ouais, j'avoue totalement faire partie. Donc,
non, après au Barça, il y a resté 5 ans, 74-79, Polo l'a évoqué, les Allemands allaient au Real et les Hollandais, les Néerlandais au Barça. C'est historique.
Un débat qu'on devrait faire un jour, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette période-là, et même aujourd'hui, mais c'est... Voilà.
Vrai moment important aux Pays-Bas aujourd'hui.
Ah oui.
Évidemment, parce que comme le disait Polo, évidemment tout le monde n'avait Dieu que pour Johan Cruyff, parce qu'il était le plus beau, le plus fort, le plus talentueux, le plus décisif, l'homme qui attirait toute l'attention, qui aimait avoir cette attention-là, l'homme du vestiaire, celui qui recadrait, gueulait, encourageait. Mais c'est vrai que Niskens avait quand même cette importance sur le terrain, où Polo disait un milieu box-to-box, c'est ça, c'est-à-dire quelqu'un très agressif dans les duels, très fort à la récupération, un physique quand même très imposant, très fort sur les jambes, très fort sur les appuis, et en projection qui ferait aujourd'hui des merveilles, parce que quand vous voyez la qualité de science de déplacement, la force de percussion avec son ballon, la qualité de frappe aussi, c'était vraiment un joueur majeur.
Voilà pour la disparition ce soir de Johan Niskens. Le Real, Mbappé, les Bleus, les mots-clés sont lâchés. Les Bleus qui sont rassemblés à Clairefontaine aujourd'hui, deux jours après les 70 minutes jouées par Kylian Mbappé avec le Real. Didier Deschamps avait annoncé sa liste sans son capitaine. Il avait expliqué qu'ils avaient échangé et décidé de se passer de Mbappé pour qu'il puisse récupérer de sa petite blessure. Aujourd'hui, en conférence de presse, Deschamps a évidemment été questionné sur le cas Kylian Mbappé.
C'est pas faire un cas de Kylian. Aujourd'hui, il faut voir ça d'une manière plus générale. Évidemment, les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales, à un moment, ils divergent, forcément. Il faut pas oublier aussi que l'employeur, c'est le club. À un moment, S'il y a des joueurs qui sont dans des situations où il peut avoir des soucis sur le plan physique, bah, et de tout temps, ils ont été réfractaires à ce qu'ils puissent aller en sélection et prendre des risques. La surcharge du calendrier amène les clubs à être de plus en plus vigilants par rapport à la situation des uns et des autres.
Les clubs, du maire général, dit aujourd'hui Didier Deschamps au micro de Fabrice Hawkins, est-ce que c'est souvent le Real, Fred?
Il y a le cas, par exemple, Militao qui joue dans la même équipe que Mbappé. Militao a une gêne à la cuisse gauche. Il est allé montrer sa blessure à Sao Paulo et il est revenu. Alors le Real n'a pas beaucoup de pouvoir. Si le Real n'est même pas capable d'empêcher Militao de prendre l'avion, non, c'est pas les clubs. Enfin, les clubs n'ont pas de pouvoir là-dessus, sinon les clubs auraient des problèmes avec la FIFA. Non. Là, il faut dire les choses. Et je vois que Didier Deschamps est un peu gêné. Mmh. Il est clair qu'il y a une négociation entre le joueur et le sélectionneur. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas mal, hein, c'est pas grave, hein. Je trouve ça bien, moi. Hein.
Mais sans l'intermédiaire du club.
Mais le club, mais
directement Mbappé Deschamps.
Mais vous imaginez le scandale que serait qu'un club empêche un joueur d'aller en sélection? Si Kylian Mbappé avait voulu venir en équipe de France, il serait en équipe de France. Je vous dis, là, le Real n'a même pas été capable d'empêcher que Militao se tape deux fois 8000 ou 9000 km pour aller jusqu'à Sao Paulo.
Oui, mais par exemple,
simplement pour montrer une petite gêne c'est-à-dire que le médecin du Real, Militao, et le médecin du Real disent à la sélection brésilienne, il a une gêne à la cuisse, il peut pas venir. La sélection brésilienne dit OK, qu'il vienne jusqu'à Sao Paulo, on va regarder. Donc Militao, là,
la règle, c'est de faire vérifier ta blessure.
Ben voilà,
la règle officielle, ouais, c'est de faire vérifier ta blessure.
Si le Real avait son pouvoir,
ils appliquent la règle,
avec, ouais, sur les fédérations, Militao n'aurait pas fait l'aller-retour alors qu'il est blessé.
On se souvient que par exemple sur les JO, le Real, ça a été le premier club à dire non, on libère pas, et ils ont pas libéré.
Oui, mais parce que non, mais
même
mais,
si c'est
mais,
pas une date FIFA, j'entends bien évidemment.
C'est pas une date FIFA, mais parce que le Real avait le droit. Il n'avait pas le droit sur les joueurs espagnols, parce que la loi espagnole oblige à ce qu'on libère les joueurs pour la sélection espagnole. Non, mais le truc, c'est simplement.
Oui, non, mais c'est du droit.
Moi, je veux bien qu'on accuse le Real de tout ce qu'on veut.
On se demande si
Mbappé avait voulu jouer avec l'Équipe de France, il serait aujourd'hui à la sélection de l'Équipe de France. En équipe de France avec la sélection. C'est tout, c'est une négociation avec Deschamps. Et je trouve ça très bien qu'à ce moment de la saison,
ça arrange le Real.
Ah, mais bien sûr que ça arrange le Real. Mmh. Mais de toute façon, ça arrange le Real et tous les clubs européens. Et moi, je vais parler pour ce qui me concerne. Mmh. Vous savez comment on appelle les problèmes de sélection, quand les joueurs partent en sélection, on appelle ça le virus FIFA. Parce qu'il y en a toujours un ou deux qui revient avec un petit bobo, voire plus, si affinité. C'est-à-dire que dans la presse espagnole, dans la manière de parler de ces breaks de sélection, on appelle ça le virus FIFA. Donc voilà, en Espagne, bien, c'est aussi, je l'ai souvent expliqué, la culture espagnole, on aime bien la sélection, mais c'est pas un pays de football de sélection, c'est un pays de football de club. Les gens sont d'abord supporters de leur club avant d'être supporters de la sélection.
Quand tu dis tout ça, on peut comprendre effectivement que le Real soit réfractaire à...
Mais si le Real pouvait, aucun des joueurs n'irait, quoique...
Non mais c'est
les
pas
mecs,
une...
non mais les mecs
c'est pas un veto qui met, c'est pas ça que je veux dire.
Ne peut pas mettre de veto.
Exactement, c'est pour ça que c'est
pas un veto
qui met.
Mais après quand tu discutes avec les gens, ils t'expliquent qu'ils ont tout intérêt eux pour leur business que leurs joueurs soient internationaux. Ça coûte plus cher de si Mbappé n'était pas en sélection d'équipe de France, ben c'est un joueur moins connu pour le Real. Donc c'est ouais, ça compte aussi. Mais si ça compte aussi. Non mais je veux dire, le truc c'est que là, ouais, et dans les mots de Didier Deschamps, on a l'impression oui c'est le Real qui paye, c'est les clubs qui payent, etc. Si Deschamps avait voulu que Mbappé soit en équipe de France aujourd'hui, il serait en équipe de France puisque le joueur n'est pas blessé. Il n'est pas en très grande forme physique. Il était titulaire contre Villarreal. Il n'a pas fait un bon match. Il a joué 70 minutes. Il n'a pas de problème de blessure. Il a peut-être un problème d'état de forme qui demande peut-être pendant 10 jours, là, de travailler spécifiquement avec Pintus à Madrid. Moi, je trouve ça bien que ça se négocie. Ça sert à rien de griller Mbappé pour ces matchs-là tout de suite maintenant.
Non, mais ce qui est étonnant dans tout ça, ça n'aurait pas posé de problème s'il n'avait pas joué 70 minutes samedi. C'est ça qui pose question.
Mais c'est la même question. Si l'équipe de France avait voulu que Mbappé soit là, Mbappé serait là. Mmh. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison médicale pour l'empêcher. Il y a un état de forme.
Je crois que c'est pas ce qu'Mbappé a dit à Deschamps, et je pense que c'est pas ce que le staff médical du Real a dit au staff médical de l'équipe de France.
Il est pas blessé. S'il est convoqué, il est obligé de venir. C'est tout.
Oui.
Non, c'est parce que l'équipe de France a accepté qu'Mbappé ne fasse pas l'effort de venir alors qu'il n'est pas très bien physiquement.
On a l'impression que c'est un souci surtout de communication finalement, que peut-être Deschamps, ça l'arrangeait bien de prendre l'exemple de la blessure, que Deschamps et Mbappé d'ailleurs, ça les arrangeait bien, mais que finalement
après,
la blessure
n'était pas là. Mbappé, il fait un peu ce qu'il veut là, il décide avec Deschamps, il discute, il déchire. Un autre joueur n'a pas les mêmes
comment ça se passe
voilà,
chez vous mes autres drôles de dames. Tiens Julien, est-ce que t'as des histoires comme ça avec tes grands clubs qui ont un peu de mal peut-être parfois à lâcher leurs joueurs?
Non, alors Arsène Wenger c'est l'exemple le plus
ah oui.
Le plus précis, on va dire, le plus important des dernières années ici en Angleterre. Il y a longtemps il avait quand même pas mal de, notamment quand Raymond Domenech était le sélectionneur. D'ailleurs, il n'y avait pas qu'Arsène, il y avait aussi les joueurs français d'Arsenal qui étaient pas trop chauds à l'idée de rejoindre l'équipe de France et Raymond Domenech. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de tensions à cette époque-là, mais ça remonte à il y a longtemps. Depuis, on a régulièrement un Guardiola ou un club qui disent que de toute façon, que les joueurs veulent aller en sélection et que tu peux rien faire. Donc non, il y a pas trop, on n'a pas trop d'affrontements entre guillemets ou de tensions entre club et sélection nationale.
Ouais, Johan en Italie, Polo en Allemagne, est-ce que
en Italie, il y a pas d'exemple aussi éclatant que Mbappé. C'est-à-dire aussi bien par le poids du joueur, ses qualités au sein de l'équipe de France que par son statut. Par contre, on a eu récemment, et c'était un gros problème que soulignait Roberto Mancini, des blessures diplomatiques, mais plus par volonté des joueurs. Et au mois de juin, quand ils avaient le choix entre aller à Ibiza, Dubaï, aller aux Seychelles, et puis aller jouer un match aux îles Féroé ou en Arménie,
bravo.
Bon, on avait un peu mal aux pieds, quoi. Et notamment Zaccagni de la Lazio.
Ibiza, c'est très bien pour les pieds. L'eau d'Ibiza pour les pieds, les bas de pieds, c'est
surtout
très bon.
Pour la Pubalgie, pareil.
Ouais, c'est ça.
Mais Zaccagni, c'est un exemple qui lui a causé des problèmes ensuite en sélection nationale, parce que Roberto Mancini avait vite compris que bon, il avait choisi les vacances. Mais on n'a pas de cas aussi éclatant que ça, et pas sur des joueurs aussi importants que Mbappé.
Polo, le Bayern.
C'est une formidable hypocrisie, en fait, tout ce qu'on entend en ce moment. Déjà parce qu'on peut comparer historiquement. Je rappelle qu'en Allemagne, certains joueurs ont refusé la sélection. Je parlais de Paul Breitner tout à l'heure.
Pour des raisons politiques.
Et de quitter. Oui, pour des raisons politiques, et tout simplement parce qu'il ne voulait pas. Bernd Schuster ne voulait pas venir non plus parce qu'il estimait qu'il y avait beaucoup de cons dans l'équipe. Donc, il y a différentes raisons. C'est-à-dire que, aujourd'hui, tout est une question d'argent, c'est-à-dire que dans le discours de Deschamps que j'adore et qui devrait mettre à l'aune de l'histoire, parce que jamais on parlait comme ça d'une sélection il y a 40 ans, il dit ne pas oublier qu'un club paye le joueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le commerce est plus important que le national, entre guillemets, que la politique nationale. C'est très intéressant politiquement d'analyser ça à l'aune de 2024 ou ce qui se passait avant. Autre chose, on oublie tout le temps, le club c'est un championnat, c'est des Coupes d'Europe, c'est un produit. L'équipe nationale aujourd'hui est un autre produit. Donc elles sont forcément en concurrence. Et on n'a pas forcément les mêmes intérêts. Énorme hypocrisie aussi des joueurs qui sont heureux comme tout lorsque les joueurs sont appelés en sélection parce que leur valeur sur le marché augmente et eux, ils en profitent. C'est aussi entre sélections, d'ailleurs, la guerre entre sélections. S'il y a des sélections qui sont plus bankable que d'autres. Et de dire, ah bah ouais, mais si vous partez tout le temps, c'est pas bien pour nous parce qu'on a besoin de vous pour jouer, vous pouvez pas vous reposer, etc. La question derrière, à la rigueur, c'est pas la sélection des clubs, c'est la question de l'évolution du calendrier depuis des années. Et qu'est-ce qu'on se dit en Allemagne? On se dit que la fédération doit s'entendre avec la Ligue et réciproquement pour avoir une bonne relation entre clubs. Il est arrivé évidemment pour des raisons commerciales évidemment, les sélections partent aux Amériques pour aller faire une tournée, etc. Mais comme par hasard, on n'a pas les meilleurs.
Polo, on a un petit souci de connexion là, malheureusement. Je me demande d'ailleurs si c'est pas politique, comme par hasard. Non, ça lui a changé la voix comme si. On va le reconnecter.
Deux petites choses. Moi, je me souviens d'une colère de Florentino Pérez en 2001, quand Zidane arrive au Real et que l'équipe de France va faire un match pour le fric en Australie. Et notre producteur Antoine Varnier me rappelait que Dugas s'était fait démonter le genou à ce moment-là. Donc ça pour genre de
problème. Kevin Muscat.
Comment? Exactement. Et l'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, en Espagne, on est à plus de 30 blessures musculaires en un mois et demi, là, depuis le début de la saison.
Beaucoup en Europe, de toute façon.
Oui, des blessures très, très graves. Est-ce que les sélectionneurs, comme Deschamps, ne se rendent pas compte que, comme c'est très difficile pour les clubs de jouer, de gérer les joueurs, est-ce que c'est pas par moment, aux sélectionneurs, dans certains moments, de
faire
gérer
les choix,
la santé des joueurs?
20h18, petite pause et on est de retour avec les drôles de dames sur RMC. Polo, promis, dira la fin de son propos et on parlera de Ten Hag, toujours là. On en parle toutes les semaines et il s'accroche après un nouveau match nul. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Nous sommes lundi le 7 octobre et le lundi à 20h-22, c'est Génération After spécial drôle de dame. Jusqu'à 22h avec Johan Crochet, Julien Laurence, Polo Breitner et Fred Hermel. Dans quelques minutes, On parle Bundesliga avec Dortmund qui ne va pas mieux, Ten Hag qui a encore sauvé son poste. Mais pour conclure, on était sur le débat sélection nationale qui ont peut-être parfois du mal à lâcher certains de leurs joueurs. Et Polo, on t'a retrouvé. Tu voulais conclure. On voulait que tu conclues surtout sur ce sujet en Allemagne.
Et que c'est une force, c'est une énorme hypocrisie, et qu'en fait, ce qu'il faut faire en ce moment, c'est que la fédération s'entende bien avec les ligues, donc les clubs, pour discuter à quel moment on a besoin de tel joueur, etc.
Mais
c'est une évolution qui est dramatique en fait, et derrière c'est très hypocrite, parce que on parle, j'ai le sentiment de parler d'un pays pour son équipe nationale, mais derrière il y a aussi des intérêts commerciaux. Or moi on m'a fait comprendre que les associations qui s'occupent des équipes nationales gagnent beaucoup d'argent, et par exemple quand elles s'occupent des clubs elles en gagnent beaucoup moins, donc avant avoir tendance à se dire mais si, il faut qu'Mbappé aille absolument en équipe de France parce que pour nous on peut vendre nos droits, et ça il y a plein d'hypocrisie à ce niveau-là. Et mais pour conclure, c'est le calendrier quand même aujourd'hui qui est dramatique. Ouais. Et voilà, c'est aujourd'hui on dépasse le cadre. Pour moi, on a largement dépassé le cadre de ce qui se passe entre une équipe nationale et entre les clubs. Je finis juste là-dessus 10 secondes. Tu sais, Thibaut, il y a une quinzaine de jours, j'étais à Dortmund. Ouais. Et à cause de notre calendrier aujourd'hui, avec la Ligue des Champions, l'Europa League, etc., le Borussia Dortmund a pris un retard systémique sur l'ensemble de ses opérations. J'ai envie de dire périphériques, qui n'ont rien à voir avec le football, parce qu'il faut favoriser la récupération des joueurs. Donc tout ce qui est publicité, tout ce qui est marketing, tout ce qui est des discussions avec les médias par exemple, sont mis un petit peu de côté, et on rattrape ça comme on peut. Ils avaient même pas fait la photo annuelle de début de saison, vous savez, qui en plus a d'autres problèmes, parce qu'il faut attendre la fin des transferts pour avoir évidemment l'équipe complète, et donc ils avaient même pas eu le temps de le faire, et nous ça nous posait des problèmes parce qu'ils décalaient ça comme ils pouvaient. C'est vraiment très compliqué ce qui se passe en ce moment, et ça dépasse à mon avis le cadre de sélection avec club.
Non, et puis se mettre d'accord entre UEFA, Ligue et club, ok. Mais l'UEFA, ils n'ont pas créé la Ligue des Nations pour que ça redevienne des matchs amicaux où on teste 50 joueurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aussi avoir les joueurs stars. Donc je suis pas sûr que l'UEFA soit ravi de voir très intéressant. Des gestions de
c'est une phrase, mais il faut qu'on avance.
De conditions physiques des joueurs.
Et les clubs qui se plaignent sont ravis de rajouter un mois de compétition avec le Mondial des clubs de mi-juin à mi-juillet.
32-16, si vous voulez en débattre avec les drôles de dames et continuer le débat, vous aurez la parole à 21h45. Direction l'Angleterre. Julien est un homme dont on parle souvent, mais parce que à chaque fois on croit qu'il va se faire virer. Et à chaque fois il sauve sa tête pour pas grand chose. Match nul contre Aston Villa ce week-end. Il y avait déjà eu le match nul arraché contre Porto en Coupe d'Europe jeudi. Donc, Ten Hag est toujours là. Une semaine de plus.
Toujours là. Et moi aussi, ça me saoule, hein. Pour tous les autres, ça me saoule aussi. Moi aussi, ça me saoule. Donc, parlez-lui tout le temps, tous les dimanches, tous les lundis, pardon. On est bien obligé parce que ça reste l'actualité du moment. Et Manchester United reste avec le Real Madrid le plus grand club du monde. Donc, beaucoup, ça fait beaucoup parler ici en Angleterre. Il avait 2 matchs pour sauver sa place, ou en tout cas pour s'acheter un peu de répit. À Porto, on l'a dit, un match miraculeux à la dernière minute sur une tête de Maguire, alors qu'ils auraient dû perdre. Et dimanche, à Aston Villa, dans un match très pauvre. Techniquement, de la part des deux équipes, hein. D'ailleurs, je pense Aston Villa avait encore un petit peu la tête au Bayern à la fête avec des champions de mercredi soir. Et Manchester United et Erik ten Hag ont joué pour un match nul, pour un 0-0, ce qu'ils ont obtenu avec Johnny Evans, 36 ans, homme du match, élu homme du match après un match pareil, ouais, où il a joué tout en lecture de jeu et tout en expérience, le bon Johnny. Mais c'était vraiment pas fameux comme match dans son ensemble déjà. Et pour ten Hag, il y a une réunion demain de tous les grands patrons de Manchester United qui était déjà prévu à l'avance. C'est pas une réaction à ce qu'on a pu voir ce week-end ou contre Porto ou l'humiliation contre Tottenham le week-end d'avant. C'était prévu de longue date, mais forcément l'avenir de Tuchel, il sera abordé.
De Tuchel.
De Ten Hag. Ouais. Voilà, il sera abordé avec Thomas Tuchel qui reste un candidat bien sûr comme d'autres.
C'est révélateur.
Thomas Frank à Brentford. C'est révélateur, oui, parce que je pense qu'il ferait du très bon travail là-bas, mon Polo.
On en parle
plus que ça
ou à United.
Oui, parce que forcément, parce que même si Manchester United décide de le garder là maintenant, de lui donner effectivement ce répit là, de lui offrir 3 autres matchs jusqu'à la prochaine trêve internationale, par exemple, on verra bien. Voilà, exactement, on reviendra toujours au même point qui est que de toute façon c'est insuffisant ce qu'il est en train de faire avec cette équipe là, une équipe qui c'est son équipe à lui, on l'a déjà expliqué, on va pas le répéter non plus. Il a dépensé beaucoup d'argent pour avoir les joueurs que lui voulait, beaucoup d'ailleurs qu'il avait déjà entraîné aux Pays-Bas à l'Ajax. Donc, mais les problèmes sont bien plus profonds simplement qu'un 0-0 à Aston Villa ou qu'un 3-3 à Porto par exemple. Ils sont 14e de Première Ligue. Après 7 journées, ils ont 8 points. Donc c'est au moins il bat ses propres records puisque la saison dernière il avait 9 points. Là il a 8 points. C'est-à-dire le pire début de championnat de Manchester United depuis 1989. Ils ont une différence de but de moins 3 sur ses 20 derniers matchs de Première Ligue. Donc si on compte ce début de saison et la fin de la saison dernière, il a 6 victoires donc en 20 rencontres. Même Everton a pris plus de points que lui. Donc voilà, 2 victoires en 7 matchs cette saison. On va pas refaire. Ils marquent pas de but. Ils en prennent pas en ce moment. Mais c'est largement insuffisant. Donc, sincèrement, je pense que c'est un peu un casse-tête aussi de la part de Manchester United parce qu'ils l'ont prolongé cet été après avoir sondé d'autres entraîneurs, dont Thomas Tuchel encore une fois. Et maintenant, ça coûtera très cher de le virer. Sauf que tu sais qu'il y a aucun avenir pour lui. Et je pense que t'as un petit peu les fesses entre deux chaises. Si tu vois ce que je veux dire.
Je vois. Et puis bon, un casse-tête au bout d'un moment, quand on a marre, le mieux c'est peut-être de le jeter. Hein. Puis voilà, tu prends.
Mais oui, il faut prendre la bonne décision. Mais elle est tellement évidente, cette décision. Elle l'est depuis tellement longtemps. Je comprends pas qu'il soit encore l'entraîneur de Manchester United.
Dans un instant, Polo, l'Allemagne, Dortmund, l'effet Sain se fait désirer. Et le Bayer Leverkusen qui laisse des plumes ce week-end. Il y aura également la minute de Fred Hermel. Vous êtes sur RMC, c'est Génération After spécial Drôle de Dame. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
Et comme tous les lundis soirs, les drôles de dames sont là jusqu'à 22h. Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, 32-16. Si vous voulez les interpeller, leur poser une question, 21h45, les drôles de dames seront tout à vous. À suivre, la minute de Fred, le Napoli qui est en tête du Calcio. Mais d'abord, Paulo, la Bundesliga. Et on pensait Dortmund enfin lancé, peut-être, en tout cas, après les deux derniers succès larges contre Bochum, le Celtic la semaine dernière, 7-1 en Ligue des Champions. Mais samedi, rechute, défaite à Berlin 2-1 face à l'Union.
Alors rechute en plus avec les mêmes caractéristiques qui touchent ce club depuis des années, c'est le syndrome des montagnes russes. Et les montagnes russes, c'est-à-dire que tu sais pas pourquoi ce club se met à jouer et peut mettre 3-0 à tout le monde, et d'un seul coup, ils vont à Union Berlin et ils font une première mi-temps dramatique. Personne ne s'explique ces variations dans le jeu de cette équipe. C'était quasiment l'équipe type qu'on voyait depuis quelques semaines. Il y avait Bayer qui était côté droit, qui pose problème d'ailleurs parce qu'Adeyemi s'est blessé, on en avait parlé. Et en fait, personne ne comprend, mais personne n'excuse. Comment on peut avoir cet état d'esprit rentré sur le terrain? Alors on peut toujours après chercher les statistiques. Union Berlin a couru 126 km pendant cette rencontre. On sait très bien ce que ça veut dire. En gros, la besogne est de retour du côté d'Union. Très bien. Mais quand tu as l'effectif du Borussia Dortmund, tu dois montrer un autre visage. Et là, il y a eu la déculottée qu'ils se sont pris à Stuttgart le 5-1. Et là, ils se prennent une raclée contre une équipe qui est théoriquement en seconde partie de classement en fin de saison, en théorie. Et ils ne comprennent pas. Et disent, mais comment on peut passer, mettre une raclée contre le Celtic et puis cette performance dramatique? Donc ça, c'est toute la question. Et donc, il n'y a pas d'effet Nouri Sahin. Et donc, on se repose la question, mais qu'est-ce qui se passe? On n'arrête pas de changer les coachs. On n'arrête pas de changer les coachs adjoints. On met une nouvelle structure, etc. Et ça ne fonctionne toujours. On accusait. Quand je réfléchis vraiment. Bah, alors moi, je pense que Nouri Sahin est un petit peu coupable de ce qui se passe. C'est ce que le journal Bild, qui est pas toujours très intéressant à lire, mais dit. Mais ils ont quand même acheté 77 millions de joueurs, des certains joueurs qui restaient sur le banc ou qui sont problématiques, qui sont pas à niveau. Je parlais de Max Bayer. Mettre Max Bayer sur le côté droit, quand tu sais comment il jouait à Hoffenheim, à mon avis, c'est peut-être problématique. Il est en train de perdre Sabitzer, justement, parce que dans son schéma de jeu, il veut le mettre à droite, donc il ne joue déjà plus en ce moment. Mais c'est super important. Julian Brandt en position de numéro 10. Est-ce que c'est un vrai numéro 10 ou plutôt, j'ai envie de dire, un peu comme un Niskens qui travaille pour un vrai numéro 10. Je pense que c'est autre chose. Mais honnêtement, ça change tout le temps. Il ne se passe rien. Il y a toujours des variations dans le jeu qui sont très importantes. Et surtout, il y a l'état d'esprit. Tu peux pas commencer tu peux te planter une fois dans la saison où les joueurs sont pas là. Ça nous est tous arrivé à regarder des équipes. Tu comprends pas. Ben, en fait, ils sont crevés, etc. Mais quand c'est systémique et systématique, ça devient problématique. Après, donc ça, c'est le bloc. Vas-y.
Non, je vais interroger Julien, peut-être parenthèse rapide, mais quand tu mets 7-1 au Celtic de 2024, c'est peut-être pas une performance si incroyable que ça, non?
Non, c'est une bonne équipe, mais c'est une équipe qui est bien trop naïve et bien trop ouverte, on va dire, à l'adversaire. Ouais. Mais après, c'est un match de fou aussi de la part de Dortmund, dans le sens où je crois ils ont un expected goal de 2,1 ou 2, ils marquent 7 buts, quoi. C'est-à-dire que même contre le Celtic, ils marquent des buts qu'ils auraient jamais dû marquer en temps normal, des frappes, Schmeichel qui fait n'importe quoi dans les buts. Donc, cette victoire-là, 7-1, elle était aussi trompeuse un petit peu, moi, j'ai trouvé.
Et l'égalisation du Celtic, franchement, t'as pas le droit de défendre comme ça sur un mec d'1m73, quoi.
Deux minutes après le score,
Mais oui, c'est dramatique. Munich. Donc tout ça fait que ça repose la question. Et puis, toujours pareil, les journalistes cherchent des excuses. Ah oui, mais c'est les anciens. Mats Hummels, Marco Reus, qui finalement mettaient une mauvaise ambiance dans le vestiaire. Bah, ils sont plus là, Mats Hummels et Reus. Donc c'est quoi, où est le problème? Et toujours, on parle du Borussia Dortmund aussi, de ce manque de joueurs charismatiques qui pourraient porter l'équipe. On sait que Bellingham a porté l'équipe pendant un moment, mais qu'il était en partance. On sait que Haaland était aussi là pendant un moment assez court. Donc peut-être que c'est toute une réflexion globale à avoir au Borussia Dortmund. Et j'entends que Zorc pourrait revenir, donc l'ancien grand joueur, 17 ans au Borussia Dortmund, ancien recruteur, etc., directeur sportif, va revenir au club, apparemment au conseil de surveillance. Et ça, c'est peut-être une façon de dire la Schlag va revenir quelque part, parce qu'il faut changer quelque chose.
Et le Borussia Dortmund qui est ce soir 7e avec 10 points, à 4 points du Bayern, du RB Leipzig, et à 1 point seulement, Polo, du Bayer Leverkusen.
Alors là,
la surprise du week-end, finalement, c'est qu'il n'y a pas eu le Chabi Time. Tu vois, quand il est plus là, on est surpris.
Enfin, moi, c'est le Chabi Time, si tu veux, ça m'a toujours un peu fatigué. Parce que ça, c'est une façon d'expliquer l'inexplicable qui, moi, me fatigue un petit peu.
Parce que Polo, il explique ce qui se passe. Voilà, c'est la différence.
Là, je peux expliquer ce qui se passe. Pour moi, le club,
c'est contre Kiel.
Contre Kiel. Donc, mais c'est pas, même pas ça. Le scénario, c'est tu mènes 2-0. Tu sais très bien que Leverkusen est largement supérieur au Holstein Kiel, qui est un club promu et qui, à mon avis, devrait redescendre. Et puis, tu mènes 2-0 tranquille. Tu exploses tout le monde. Tu t'amuses. Tu en profites même pour remettre dans le 11 de départ Hoffmann, qui était un peu aux abonnés absents depuis le début de saison. Tu refais reculer Andrich. Palacios vient. Deux passes décisives tranquille. Tu dis, ça va finir 5-0. Et enfin, Leverkusen, à l'image de ce qu'ils peuvent faire en Ligue des Champions, a commencé sa saison. Et puis ça fait 2-2. Et ça fait 2-2 dans une équipe qui est incapable de réagir, qui, à mon avis, est en train de s'embourgeoiser. C'est pas la première fois. Ils ont eu de la chance, justement, avec ce fameux Chabi Time, la victoire à Mönchengladbach, le match nul contre le Bayern où ils ont souffert. Le fait, par exemple, que Xabi Alonso décide de blinder à 10 minutes, un quart d'heure de la fin contre Milan, le jour où il va se faire reprendre un 1-1, c'est pas ça. Et en fait, on a l'impression, en début de saison, je disais déjà, quand je voyais Leverkusen jouer de cette façon, etc., faut faire attention que la satisfaction de l'année dernière ne devienne pas de la suffisance, que cette facilité qu'ils ont technique ne devienne pas de la suffisance. Et moi, j'ai le sentiment d'avoir une équipe qui sait qu'elle est supérieure à son adversaire. Au bout d'un quart d'heure, elle mène 2-0 et elle lui dit, bon, écoute, on serre la main, on va se reposer un petit peu. Sauf que le mec en face, il n'a pas envie d'abandonner et il joue et Leverkusen, eh ben, n'a peut-être plus les leaders qu'on aurait envie de revoir. En tout cas, Xabi Alonso est très, très mécontent. Radecki a eu des métaphores exceptionnelles en disant l'année dernière, lorsqu'on rentrait sur le terrain, on savait qu'on voulait tuer l'adversaire et cette année, c'est problématique parce que le patient blessé, on le laisse en vie. Donc, on rate le 3-0. Donc, je trouve, il a dit que c'était inacceptable ce qui se passait à Leverkusen en ce moment. Encore une fois, c'est pas une question de jeu. C'est une question qui sont trop faciles et ils s'amusent. Or, si tu respectes pas ton adversaire, eh ben, il risque de t'arriver ce qui est arrivé ce week-end. Et c'est pas la première fois.
Mais non, c'est tellement, les équipes qui ont bien mangé, retrouver la faim derrière, c'est compliqué.
Quand tu vis en Italie, on appelle ça la pancia piena, le ventre plein.
Ouais. La Pamfaïella en espagnol.
Et ce qui fait peut-être la différence entre un beau club comme Leverkusen, que j'aime beaucoup de par son histoire, et puis ce qu'ils ont produit comme génération, et les grands clubs.
Vous n'avez pas le ventre plein, mes drôles de dames. Non.
Bah, moi, ça me fait combien c'est ma 25e saison à RMC, donc.
Donc t'as un peu le ventre plein, ce que tu me dis.
Non, j'ai toujours faim, moi. Ah. Moi, je commence à chaque fois comme si j'étais encore pigiste.
Ça tombe bien, parce que c'est ta minute. Bien.
Elle existe dans toutes les langues, cette chanson.
Ben oui, c'est une fameuse, comédie musicale américaine. Et bien sûr, en français, c'était chanté par Jacques Brel. C'est El Hombre de la Mancha, l'homme de la Mancha, le pays de Don Quichotte. Et qui est né dans la Mancha? Il est Andrés Iniesta.
Ah,
mais oui. Bon ben voilà, il arrête.
Ça y est.
Bah, c'est en train de s'être officialisé. Ça sera officialisé totalement demain. Il a 40 ans, il termine sa carrière. Donc c'était évident. D'ailleurs, j'avais reçu plein de messages sur Insta et sur Twitter de gens qui font sur X. Gens qui disent, est-ce que tu vas parler d'Iniesta et tout ça? Bah oui, parce que c'est vraiment le joueur qui a fait l'unanimité en Espagne. Et quand on se pose la question, quel est le plus grand joueur de l'histoire espagnole? On est beaucoup à penser que c'est Andrés Iniesta.
Ah ouais?
Ouais. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, c'est lui qui met le but de la finale, la première et unique pour l'instant en Coupe du Monde de l'Espagne en 2010. En plus, quelques temps après la mort de son ami Jarque, de l'Espagnol, et qui il soulève son maillot et il dit Jarque siempre con nosotros, Jarque est toujours avec nous. Parce qu'il est aussi, au départ, il unit le pays, parce que lui, il vient de la Mancha, d'une famille très, très madridiste. Son oncle est d'ailleurs un peu connu, ultra madridiste, etc. Formé au Barça, grand joueur du Barça, symbole du Barça. Un joueur qui a été applaudi sur tous les terrains d'Espagne. C'est pas évident, parce que l'Espagne, c'est compliqué entre les régions, etc. C'est quelqu'un qui a fait un peu l'union impossible. Et c'est quelqu'un qui symbolise, finalement, ce qu'il y a de mieux dans le foot espagnol, les petits joueurs techniques du milieu de terrain. Bravo Iniesta y muchas gracias.
Ouais, magnifique joueur, même si c'est vrai que ça faisait plusieurs années qu'on a l'impression qu'il ait déjà pris sa retraite, quoi. Il est un peu disparu des radars. Oui, bon, c'est officiel.
Il a joué longtemps à Kobe, au Japon.
Iniesta, ça vous inspire quoi, les drôles de dames? Vous êtes étonné d'entendre dire que c'est le meilleur espagnol de l'histoire ou pas du tout?
Moi, je suis d'accord, moi.
Ouais. Moi, en tout cas, c'est l'élégance. Voilà, je trouve qu'un terme qui lui va bien, c'est l'élégance. Le fait que c'est un maestro milieu de terrain, que c'est lui qui dictait le tempo, c'est lui qui accélérait quand il fallait accélérer. Très fort dans les petits espaces, pied droit, pied gauche. Très intelligent, cuit football énorme. Donc oui, un immense joueur.
À suivre.
Les défaites allemandes.
Ouais.
en Euro, en Coupe du Monde, tout ce que tu veux.
C'est Iniesta.
C'est Iniesta. Enfin, il faudrait voir comment jouait l'Espagne à l'époque. Moi, pour moi, c'était même pas humain. Je mets ça entre guillemets, évidemment, parce que ça voudrait dire beaucoup de choses. Mais la façon dont jouait l'Espagne à l'époque, la façon de faire tourner le ballon, je sais pas si on reverra ça un jour. Quoi. C'est des moments historiques, uniques, et il faut absolument le valider et de dire, mais attends, il y a ce moment-là. C'est le fait que l'Allemagne ne perdait qu'un zéro était presque exceptionnel, tellement on ne voyait rien. Quoi. C'est un truc fou.
Iniesta, retraité. Dans un instant, la minute de Julien Laurens. La barre est haute ce soir, attention. Et le Calcio. Le Napoli en tête du Calcio. Est-ce que c'est vraiment la meilleure équipe d'Italie sur ce début de saison? On demandait ça à Johan, Génération After. Spécial drôle de dame continue en direct jusqu'à 22h. A tout de suite.
RMC, 20h-22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
9h, vous êtes sur RMC, c'est Génération After spécial Drôle de Dame avec Fred Hermel, Paulo Breitner, Julien Laurens et Yoann Crochet, 32-16. Si vous voulez poser vos questions aux Drôle de Dame dans une heure pile, elles seront face à vous. Vous nous appelez, vous êtes en direct sur RMC dans Génération After spécial Drôle de Dame. À suivre, le Bayern qui ne gagne plus, mais qui domine, et ça n'inquiète pas plus que ça. La minute de Julien Laurens, mais d'abord... Le Calcio.
Je peux dire un truc.
La Serie A.
Je suis désolé, mais une seconde, c'est une question intéressante.
On est toujours sur YouTube, le chat de la chaîne.
Tu me permets, parce que là, c'est important, parce qu'il y a Guy Croquette qui demande pourquoi Griezmann a été conspué à ce point à Saint-Sébastien avec des va mourir, des meurs et tout ça, des insultes. Alors qu'il a toujours été d'une grande élégance, Antoine, par rapport à la Real Sociedad. Mais vous savez, même dans les grands clubs, il y a des abrutis. Et il y a des abrutis à la Real Sociedad aussi, comme des abrutis dans tous les clubs. Voilà. Et c'est vraiment dommage de dire à un type comme Griezmann, qui a été formé au club, qui a toujours eu un comportement magnifique, qui a rapporté de l'argent à son club, de le traiter de cette manière. Voilà. Ce sont ces abrutis-là qui tuent le foot.
Pardon, transition. Il y en a pas. La Serie A. Non, je suis pas trop abruti. Je regarde Johan Crochet. Non, je veux pas.
Ah, c'est beau.
Le Napoli, Johan de Conte, qui est en tête de Serie A ce soir. Est-ce que c'est le meilleur club italien du début de saison? Parce que sur le papier, oui, mais est-ce qu'on peut le dire comme ça ou c'est un peu choquant?
Non, si on prend tout ça de manière générale, oui, parce qu'ils sont en tête, parce que c'est la seule équipe qui dépasse les 2 points par match, et donc ça veut quand même dire quelque chose, qu'il y a des individualités qui brillent évidemment. Sur le plan du jeu, on n'est pas sur un gros début de saison de manière générale en Italie. Le Napoli est encore très loin de ressembler au Napoli de Conte, en tout cas tel qu'on est beaucoup à se l'imaginer, en prenant exemple sur ce qu'ont été les équipes d'Antonio Conte jusqu'à présent. Ce jeu très codifié sur les sorties de balles, sur les rôles des pistons, sur les projections des milieux de terrain, tout ça, on a encore un peu de mal. Peut-être que lui a aussi changé et qu'il voit les choses un petit peu différemment. Il y a évidemment une constante, c'est le long ballon sur Lukaku, parce que en Serie A, il domine encore très largement physiquement et on le voit encore, même s'il n'est pas à 100% dos au but, c'est quasiment impossible de lui prendre le ballon. Et
buteur, donc, passeur encore ce week-end.
Exactement.
Lors de la victoire 3-1 contre Com.
Une magnifique passe décisive d'ailleurs. Que beaucoup de numéros 10 ont fait dans leur carrière, mais lui en l'occurrence Lukaku, on l'attend pas toujours dans ce registre-là, mais
on te croit, parce qu'on l'a pas vu en France, mais
ah oui, c'est vrai, il y a un problème de
et merci d'être là.
Mais en tout cas, c'est une très belle passe décisive, et donc c'est la meilleure équipe parce qu'elle est OK en tête, parce que surtout, je trouve que Antonio Conte, encore s'il a pas donné sa pleine mesure sur le plan de la construction du jeu, sur réussir à insérer ses principaux traits tactiques, en tout cas, il a réussi à redonner une âme à cette équipe qui était totalement à l'abandon, à l'agonie même la saison passée, qui démontre aujourd'hui un vrai caractère, c'est-à-dire que quand on défend sérieusement tous ensemble, c'est souvent un bloc bas, c'est pas forcément génial encore, c'est pas forcément ultra proactif. Si ça arrive sur des morceaux de match, on peut le comprendre et toutes les équipes le font plus ou moins. Parfois, c'est encore un petit peu trop fréquent du côté du Napoli de Conte, mais en tout cas, ils le font très bien tous ensemble, là où l'année dernière, ils le faisaient clairement pas bien. Donc ça, c'est déjà très bien. Sur la volonté de toujours aller arracher les résultats, sur tout ça, tout ce qui est sur l'aspect psychologique, reconstruction d'un groupe, d'une mentalité pour aller chercher les résultats, il l'a fait très bien. On sait que c'est une des grosses qualités de Conte. Sur le plan du jeu, encore beaucoup de choses à améliorer, même si on voit bien que Lobotka redevient central, comme il ne l'était plus la saison passée, mais qu'il l'avait été les années précédentes, notamment avec Luciano Spalletti. On voit que sur les côtés, ça se cherche encore un peu sur l'utilisation des pistons. Antonio Conte a déjà joué avec une défense à 4, ce qui est très rare chez lui. Il l'avait pas fait depuis Bari. Donc Bari, c'est début des années 2010.
Les Pouilles.
Fin des années 2000. D'ailleurs, j'espère que tu auras de la pluie dans les Pouilles.
Non, mais dès que t'es dit Bari, tu as le visage de Thibaut s'est illuminé.
En pensant à ses vacances.
J'y vais dans 3 semaines. Je peux dire que j'espère que ça va être bien, parce que si c'est pas bien, c'est ta faute. Tu vois, c'est toi qui m'as préparé.
Bien pluvieuse comme à Rome en milieu de semaine.
Je vous raconterai en rentrant.
Non, mais tout ça pour dire que meilleure équipe, oui. Encore une énorme marge de progression pour le coup, vraiment. Et en tout cas, ce que j'aime, c'est de revoir des joueurs de foot. C'est-à-dire des joueurs qui sont plus simplement occupés par leur situation contractuelle. Je gagne moins de toi alors que toi tu viens d'arriver. Des joueurs déçus de pas pouvoir être partis, d'avoir vu le club refuser des grosses offres. Tout ça, on a mis un peu de côté et Conte, la cure Conte, on appelle ça la cure Conte vraiment en Italie, est en train de prendre. Et en tout cas, il y a des joueurs qui s'élèvent à nouveau au niveau où ils doivent être en permanence, comme Kvaratskhelia, par exemple, comme Lobotka, qui sont redevenus des vrais joueurs de foot. Zambo Anguissa, qui est en train de revenir aussi à un niveau plus qu'honorable. Et défensivement, il y a un joueur qui fait une grosse différence, c'est Buongiorno, qui est arrivé en provenance du Torino, qui est arrivé cet été. Et on sait que l'année dernière, la transition entre Kim, qui est parti au Bayern, et Nathan, le Brésilien, qui est arrivé pour le remplacer, a été très compliquée. Là, on retrouve vraiment un défenseur agressif, physique, calme, ça c'est très important dans les équipes de Conte, avoir un défenseur qui est calme, qui est pas surexcité, qui fait pas n'importe quoi, qui a la lucidité pour sortir la balle proprement, pour faire tourner, pour tacler, pour enfermer un joueur sur le côté, pour faire des chiuso là, des fermetures sur des centres ou ce genre de choses là. Donc voilà, si on faisait un conseil de classe du Napoli, ça serait ce serait plus qu'encouragement, ça serait très bien et continue ainsi
par rapport à l'Inter 2020.
Par rapport à l'Inter 2020.
À l'Inter 2020, parce que moi c'est mon summum de Conte en tant que
comprendre, Polo. Non, collectivement on est encore assez loin de ça. Même sur
rapport au Tottenham de
par rapport à la oui. Par rapport à la puissance que dégageait mon cher Polo cette Inter 2020 où tu as l'impression que ils étaient plus forts, qu'ils couraient plus vite, que c'était plus intense, que ça défendait mieux, que ça attaquait mieux. On n'est pas encore à ce niveau-là, il faudra du temps. Les joueurs partent d'un peu plus loin, il y a aussi un peu moins de talent de base que dans cette Inter 2020. Mais moi, je suis assez confiant pour que ça devienne une équipe très embêtante, même si, pour finir sur Antonio Conte, j'aimerais bien qu'il se défasse un peu du côté Calimero, du côté tout le monde est contre nous, peu le côté sud-nord qui est très facile à jouer quand on est entraîneur du Napoli. Sarri l'a très bien fait avant d'aller à la Juve. N'oubliez jamais que Antonio Conte, il a été de l'autre côté pendant longtemps à la Juve et à l'Inter, et bizarrement on n'entendait pas trop ce type de discours.
Dans 5 minutes direction l'Allemagne avec Polo, parler du Bayern qui ne gagne plus mais qui domine toujours autant et qui a priori n'inquiète pas plus que ça. Mais d'abord à 20h53 sur RMC, minute anglaise, minute de Julien Laurence. Ouais. Excité aujourd'hui, Julien.
Un petit peu, ouais. On va le laisser un petit peu. Iron Maiden, bien sûr, vous l'avez reconnu. Tous les fans de heavy metal l'ont reconnu, surtout surtout pas nous, quoi, parce que c'est pas une autre musique, mais bon, il fallait bien, parce que
t'étais pas né, en fait.
En plus, mais je fais un truc. Le titre de la chanson, c'est Be Quick or Be Dead, parce que bah, ce week-end, encore une fois, Brentford, on parlait de précocité tout à l'heure pour certains, dans certaines situations. Et ben, Brentford, pour la quatrième rencontre de suite en Premier League, a marqué un but très tôt dans le match. Alors, ils avaient fait très fort lors des trois derniers matchs, puisqu'ils avaient marqué après 22 secondes, 23 secondes et 38 secondes. Là, ils ont attendu 75 secondes. Samedi, un tout petit peu plus que d'habitude, mais quand même 4 matchs de suite où tu marques avant la 75e seconde, donc 1 minute et 15 secondes. Donc assez incroyable ces débuts de match de Brentford. Fantastique. Alors, les 3 fois d'avant où vous avez marqué en premier contre Manchester City, à Tottenham et contre West Ham, ils n'avaient pas gagné le match. Cette fois, ils ont gagné le match contre Wolverhampton, de très belle manière en plus. Mais voilà, une équipe qui marque très très vite, qui rentre très bien dans ses rencontres. Et en plus, là, contrairement aux 3 fois d'avant, ils avaient perdu le toss, donc c'est pas eux qui ont fait l'engagement. C'est Wolverhampton qui a fait l'engagement, alors que d'habitude dans les trois premières rencontres où ils ont marqué après une vingtaine de secondes, c'est eux qui donnent le coup d'envoi. Ça jouait long dans le camp adverse, ils récupéraient le ballon, centre, un but, et on n'en parlait plus. C'est un record d'ailleurs, personne n'avait jamais marqué en l'espace d'une minute de la première minute lors de 3 matchs de suite en championnat dans l'histoire du football anglais. Donc ils l'ont fait, et puis maintenant ils font même 4 à la suite quasiment. C'est parce fort. Que 75 secondes, ça reste quand même super super précoce.
Ouais, c'est clair. Ouais. Une fois tu peux te dire c'est un accident, mais là plusieurs fois. Merci Julien. 20h55 dans un instant, l'Allemagne avec le Bayern Munich. Il y aura également la minute de Johan Crochet dans un peu moins d'une heure, 21h45. Les drôles de dames vous appartiennent. 32-16, vous nous appelez et vous venez poser vos questions à Fredo, à Polo, à Johan ou à Julien. A tout de suite sur RMC Génération After, spécial drôle de dames jusqu'à 22h.
RMC. Le mec, il a 3 sélections, il vient du Diable Vert, hop, 3 sélections, il met 2 buts. Pourquoi tu lui donnes pas sa chance? Ça te donne une possibilité supplémentaire.
Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable, et qui est palpable visuellement, enfin, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais...
And, quelle surprise! Just imagine, they can go top of the table in Ligue 1 if they win on Friday night at home against Lille.
Il y a Florentino qui était sur la NFL.
Mais qu'est-ce que c'est ça? Fred Hermel, tu parles de Barça? Mais qu'est-ce que ça?
Il te coupe la ligne.
20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Merci d'être là avec nous. Les drôles de dames sont là. Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet jusqu'à 22h. D'ailleurs, 21h45. Si vous voulez poser vos questions à l'une ou à plusieurs de nos drôles de dames, n'hésitez pas à vous nous appeler au 32-16. Et vous êtes en direct sur RMC face aux drôles de dames dans cette deuxième heure. À suivre, le Barça qui revient au top, notamment grâce à des joueurs que beaucoup voulaient voir partir. Tottenham qui n'y arrive plus. Et puis, 21h30. Dossier très intéressant ce soir, particulièrement intéressant entre la mafia et les ultras en Italie. Liaison dangereuse, Johan Crochet, Daniel nous rejoindra également pour ce sujet. Mais pour commencer cette deuxième heure, mon cher Polo, le Bayern qui vient de passer une sale semaine. Hein, 3 matchs sans victoire, le Bayern tenu en échec à Francfort, 3 partout. Mais ce Bayern-là ne s'affole plus, Polo?
Ah, moi je dirais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que le Bayern domine mais ne gagne pas, c'est-à-dire qu'on est en train, médiatiquement en tout cas, à assister à des médias allemands qui commencent enfin, j'ai envie de dire, à se réveiller. Depuis le début de l'arrivée du Belge Vincent Kompany, ils en ont plein la bouche, c'est merveilleux, c'est ceci, c'est cela. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et évidemment, on est dans cette logique de crise de résultats, expression qui a été remise à la mode, version Nagelsmann à l'époque, pour expliquer qu'on jouait bien, mais que ça va venir, etc. Et autant on pouvait le comprendre à l'époque chez Nagelsmann, là, pour moi, c'est beaucoup plus complexe pour une raison bien simple. Déjà, je m'étais pas emballé et j'avais demandé dans le podcast qu'on avait fait sur Vincent Kompany qu'on attende un peu cette semaine pour voir où on en était vraiment avec le Bayern. Donc il y a eu le match nul à domicile où ils ont dominé évidemment les Leverkusen, mais ça fait 1-1. Il y a eu la défaite à Aston Villa avec la position de Manuel Neuer, et que je vais défendre d'ailleurs, et le 3-3 à Francfort ce week-end. Ce qui est impressionnant, c'est que pour la première fois depuis, on va dire, 24 heures, on va dire le résultat de ce week-end, la presse allemande commence à se poser certaines bonnes questions. C'est-à-dire que Kicker, ce lundi, a commencé à dire « cette équipe prend trop de risques ». La Süddeutsche Zeitung a commencé à dire « peut-être que pour le championnat, ça suffit, mais pour la Ligue des Champions, ça ne suffira pas ». Et ils disent très clairement, ils visent Vincent Kompany et sa profession de foi footballistique, c'est-à-dire l'ultra-domination par rapport aux adversaires, mais qui pose d'énormes problèmes de positionnement de son bloc dans dans l'équipe, parce que l'équipe se retrouve en 2-3-5 en fait, avec ce que moi j'appelle des terrains incognita, c'est-à-dire que tu as des zones dans le terrain où il n'y a aucun Bavarois, il suffit que l'adversaire envoie un ballon là-bas avec deux flèches, des ailiers qui sont super rapides, et à la fin ça fait but. C'est un peu le scénario de ce qui s'est passé encore une fois ce week-end. Alors évidemment, le Bayern Munich a couru, et ça c'est une excellente chose, 123 km ce week-end. C'est beaucoup pour le Bayern Munich, ça n'a pas toujours été le cas, et en général ils ont une supériorité technique qui leur permet de limiter ça. Mais ce qui est important, c'est que la prise de risque offensive est tellement grande qu'il y a un trio qui se retrouve, c'est les dindons de la farce, c'est Manuel Neuer qui est forcé de jouer extrêmement haut, au point qu'on peut se prendre un but magnifique à Aston Villa, à Villa Park, où tu as des défenseurs centraux, Upamecano et Minier, qui sont remis en confiance via le coach belge, mais qui sont sur la corde raide pendant 90 minutes, parce qu'ils doivent absolument avoir sortir le bon geste au bon moment, et évidemment tout le monde leur tombe dessus s'ils ratent un geste. Donc en fait on est en train de changer peut-être. Alors moi là pourquoi est-ce que j'étais un petit peu comme ça et je me méfiais de tout ce qui était dithyrambique depuis le Bayern au début, déjà parce que quand tu mènes 3-0 et contre tu reviens 3-2 contre le Dynamo de Zagreb, t'as le droit de te poser des questions. Pourquoi est-ce que j'étais comme ça, c'est que déjà moi ça me rappelle un petit peu ce que vivait Hansi Flick la deuxième saison. Rappelez-vous la défaite en Ligue des Champions, le fameux 2-3 au Bayern, on avait dit à l'époque que le Bayern était un peu trop haut, etc. Et quand je vois Vincent Kompany, la façon dont il joue, attention, c'est une ultra-domination, pour employer une expression qu'utilise Johan, c'est 76% de possession, c'est 4 fois plus de tirs, si on l'a dit, des kilométrages dans tous les sens, mais là, on est au mois d'octobre, qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril, au mois de mai? Est-ce que dans quel état ils vont être les joueurs? C'est-à-dire là
physiquement, tu...
Mais j'en sais rien, ouais, moi ce que je constate, c'est qu'à à l'heure de jeu, vers la 60e, ça s'est pas vu là contre Francfort, mais dans certains matchs avant, à 60e minute, 65e minute, tu voyais le Bayern qui baissait un petit peu physiquement. Et je me demande finalement si à force de vouloir presque copier Guardiola, parce qu'il s'estime comme beaucoup de coachs un peu un disciple de Pep Guardiola, qui veut pas aller un peu trop vite, Vincent Kompany, pour dire que c'est un peu trop facile ce qui se passe. Et moi, si tu mènes 3-0 au bout de 30 minutes, t'es pas forcé à nouveau de continuer à attaquer pour gagner tous les matchs 8-0. Mais je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, et que le fait que la presse allemande commence à se poser, j'ai pas envie de dire de bonnes questions parce que ça signifierait que j'ai eu raison, mais de se poser des questions si finalement ce n'est pas trop dangereux ce système de jeu. Imaginons le Real. Mais le Real, t'es Ancelotti, tu t'amuses. Tu étais là, tu te dis Mbappé, t'as rien à faire là, bah tu vas aller te mettre là-bas, cette position dès qu'on récupère le ballon aux 30 mètres. Ça, si ça fait but à chaque fois, ça devient compliqué pour le Bayern Munich. Donc c'est fabuleux ce que fait Vincent Kompany. De là à dire qu'il a trouvé la solution miracle et qu'on a un nouveau Bayern, moi je me méfie.
J'aimerais t'entendre sur nos Français qui ont brillé lors de ce match-là, ce 3 partout, notamment Michael Olise, vraiment au top en ce début de saison.
Il est top, ouais, mais moi je voudrais qu'il devienne le leader. Ça, c'est évidemment un peu trop tôt. Moussiala n'était pas là, n'oublions pas. C'est Thomas Müller, bien sûr. Moi, ce que je reprocherais, mais c'est un peu plus le match contre Aston Villa, moi j'ai été très déçu par son positionnement à côté d'Harry Kane, plus que sur le côté droit. Et d'ailleurs, ça a changé la phase du jeu. Je parle sur le contrôle de Julien, qui l'a beaucoup plus vu que moi en première ligue. C'est que son véritable positionnement, c'est un attaquant d'aile en fait, et attaquant d'aile droite, c'est pas forcément un deuxième attaquant. Et c'est pas un meneur de jeu pour compenser l'absence de Moussiala. Ce qui est sûr, c'est qu'il a sa spéciale, un peu à la Robben, quoi, pour faire briller les gardiens adverses, ou alors il prend la lucarne. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas vu un tel talent depuis longtemps. Maintenant, quand je vois qu'on commence à les comparer à Robben, à Ribéry, ça va, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut attendre un petit peu que ces gamins fassent leur carrière. Il a une facilité, une légèreté technique qui est au-dessus de la moyenne, ça c'est très clair. Je pense que c'est un excellent choix qu'a fait le Bayern Munich. Mais regardez Kingsley Coman. Beaucoup de personnes avaient plein la bouche quand Kingsley Coman a commencé au Bayern. Aujourd'hui, il est plus remplaçant qu'autre chose. Et il n'est pas au niveau d'un Serge Gnabry, par exemple, et d'un Olise. Donc, moi, je vais attendre un petit peu. On est encore en début de saison. Mais je pense qu'il y a quand même quelques questions à se poser au Bayern Munich. Et on ne peut pas ne jouer que sur l'offensive comme ça. C'est pas possible, quoi.
Le tout pour l'attaque, le fameux. Dans quelques minutes, le Barça, avec la revanche de certains joueurs que beaucoup voulaient voir partir, mais à 21h08 sur RMC. Place à une nouvelle minute. Et attention, la minute de Johan Crochet. vraiment un lover celui-là en fait. T'aimes bien aussi ça.
Francesco Guccini, titre très simple, Argentina. Déclaration d'amour à l'Argentine, évidemment.
Ah, j'aime moins tout de suite.
Et pour parler d'un Italo-Argentin qui marche très bien en Serie A encore cette saison, Matteo Retegui. Comment une blessure d'un joueur d'un club adverse peut te changer ta carrière ? Scamacca se blesse cet été, attaquant de l'Atalanta, gravement, puisque absent quasiment toute la saison. En tout cas, on l'espère début 2025, mais il faudra prendre beaucoup de précautions. Et l'Atalanta a besoin d'un numéro 9. Fait Retegui en même pas 48 heures, attaquant au Genoa, qui a fait plutôt une bonne saison, mais pas exceptionnelle non plus. Et il arrive à l'Atalanta, option offensive numéro 1, 7 buts en 7 matchs. Scamacca blessé, ça veut aussi dire que Retegui en sélection nationale italienne a le poste d'attaquant prioritaire aussi. En plus là, Moisken s'est blessé, enfin a une lombalgie. Ils ont appelé, donc pourra pas jouer lors des matchs de l'Italie là. Et donc c'est Lorenzo Luca de l'Udinese qui a été appelé. Donc tout va bien pour Matteo Retegui, auteur d'un triplé ce week-end contre le Genoa, son ancien club, et qui est en plus très très bon, qui je pense doit s'imposer un peu plus en sélection nationale. Il a eu beaucoup de difficultés au début sur la langue qu'il ne parlait pas. Maintenant ça va mieux, on sent qu'il parfait son entente aussi avec ses coéquipiers. Et j'aimerais le voir décoller vraiment vraiment, c'est-à-dire réussir à l'Atalanta ce que d'autres ont fait avant lui, devenir un joueur majeur et devenir un joueur majeur aussi en sélection.
Merci Yoann, bien aimé ta petite musique.
On a... Il veut pas ses vacances déjà.
Ouais, là je m'y vois.
Mais c'est les vacances, c'est, c'est quand il pense.
Ouais, après c'est nul la vacance.
Non mais
surtout quand il pleut dans les pouilles.
Ouais, ouais.
Non parce que ça,
mais non mais les vacances
c'est quand tu retournes dans ton nord toi. Mais
non, non mais les vacances quand tu rêves aux vacances que tu c'est ça c'est le meilleur moment en fait.
Quand t'es dans l'avion pour y aller aussi ou dans le train, c'est pas mal aussi. Oui, ça dépend où tu vas. Tu vas chez la belle-mère, c'est autre chose.
Pas varié.
21h11, eh oui, génération after spécial drôle de dame jusqu'à 22h. 21h45, le 32-16, vous nous appelez. Les drôles de dames sont à vous. Et dans un instant, le Barça au programme, le Barça au top avec Lewandowski et Rafinha, plus Tottenham également au programme. Et là, c'est compliqué. Postecoglou n'y arrive plus. Rendez-vous dans un instant sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel et Johan Crochet jusqu'à 22h, comme tous les lundis soirs. Merci d'être là, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After. Vous pouvez venir nous
voir. On parlait des villes qui étaient sympas et pas sympas. Voilà, on retient les trucs.
Fredo et Johan,
on va passer avec des gens. Non, mais il y a des endroits où t'es mieux reçu que dans d'autres.
Ah oui, oui. Tu parles.
Non, mais on parlait de villes comme ça, même à l'étranger et tout ça. Il y a des. Je sais pas, quand tu vas à Madrid, t'es hyper bien accueilli par d'où tu viennes, Madrid est une ville accueillante.
Dans le Nord, tu es bien reçu, par exemple.
Ah bah dans le Nord, mais à chaque fois, moi, c'est l'enfant prodigue qui revient. Enfin,
partout.
Partout.
Lens, Dunkerque, mais Tourcoing, bien sûr. Lille.
Même à Lille,
partout, t'es chez toi.
Mais Lille, j'étais très heureux à Lille, moi. J'ai commencé ma carrière à Lille, j'étais étudiant à Lille. Je vais même te dire que j'étais en résidence universitaire, qui n'existe plus aujourd'hui, au bout du métro. C'était la résidence Albert Camus. Juste à côté de là où il y a le stade Pierre-Mauroy. Maintenant, à l'époque 88, il n'y avait pas le stade Pierre-Mauroy.
Tout que
j'ai de très bons souvenirs à Lille.
Magnifique.
J'aime beaucoup Lille. C'est une ville qui sera toujours dans mon cœur.
À 21h30, Mafia et Ultra, les liaisons dangereuses en Serie A. Vous avez peut-être entendu parler d'un coup de filet la semaine dernière. La police qui a arrêté des ultras de Milan, de l'Inter, soupçonnés d'avoir des liens avec la mafia. Johan va nous expliquer ces liens. Daniel Riolo va nous rejoindre également. Et puis dans une demi-heure, les drôles de dames face à vous au 32-16. Mais d'abord, Fredo, le Barça au top, toujours en tête de la Liga, avec des hommes qui brillent. Que certains voulaient voir partir. Victoire contre Alavés 3-0, victoire signée Lewandowski et Rafinha.
Oui, alors c'était fou parce que quand même, il y a eu d'ailleurs un très bon article dans Marca là-dessus, qui soulignait, parce qu'on sait en Espagne, l'opinion c'est hyper important. C'est un journalisme d'opinion en Espagne, donc même dans un article normal, il y a de l'opinion, il n'y a pas que les faits, il y a aussi une prise de prise de parti. Et là, c'est un très bon papier. Et puis c'est vrai que ce qu'on se dit, c'est que le Barça, avec ses problèmes d'argent cet été, il y avait des gens très intelligents, très très forts au sein du club, qui pensaient que que Lewandowski finalement a fait une très très belle première saison, mais que l'an dernier. C'était pas c'était pas terrible et que bah s'il y avait une offre pour Lewandowski et Lewandowski avait dû expliquer que non non lui voulait continuer au Barça. Ensuite sur Rafinha, les gens disaient ouais Rafinha bon pas mal mais enfin ça n'a pas été génial. Puis Rafinha il y a sûrement du fric à se faire en le vendant à l'Angle. Il y a bien un club anglais, c'est vrai, c'est un international comme lui et tout ça, voilà. Bref, intelligemment les dirigeants ont décidé de garder Rafinha et de garder Lewandowski et ce sont avec Yamil Lamal qui est tellement extraordinaire, ce sont les deux joueurs les plus importants du Barça. La victoire à Vitoria, parce qu'à Alavés, c'est le club, c'est le nom du club, c'est la province d'Alava, et la ville, c'est Vitoria, la capitale du Pays Basque. Mais cette victoire, elle était construite avec un hat-trick de Lewandowski et deux passes décisives de Rafinha, dont la deuxième est absolument extraordinaire. Donc voilà, ce sont des joueurs majeurs qui auraient pu ne plus être là. Donc c'est une très très belle revanche pour eux. Et Lewandowski, j'essayais de réfléchir, en regardant le match, je me disais, mais pourquoi Lewandowski se sent mieux cette saison que l'an dernier, par exemple. Et alors, là aussi, Hansi Flick, bien sûr aussi. Il y a quand même beaucoup plus d'espace dans le jeu d'Hansi Flick avec le jeu de Xavi. Donc lui-même reconnaît, il n'a pas critiqué Xavi, mais il a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui les ballons m'arrivent mieux et j'ai plus d'espace pour m'exprimer. Donc voilà, on est avec un Barça qui est en train de récupérer des blessés. Ça va être important parce que c'est vrai que il y a des petits jeunes qui ont été très bons. Enfin là, il y a des poids lourds qui reviennent. Donc ça va être très intéressant de suivre cette équipe dans les prochaines semaines, bien entendu, mais de voir aussi Lewandowski qui est là aujourd'hui bien parti pour gagner le Pichichi. Donc il en est à 12 buts en 9 matchs, ce qui est quand même pas mal. Hein. Ouais, c'est un très beau. Mais j'ai comparé par rapport à ses statistiques quand il était au Bayern, il est légèrement en dessous de ce qu'il faisait au Bayern. C'est dire ce qu'il faisait au Bayern.
Ah oui, c'est vrai que ça a été monumental. Le Barça qui a 3 points.
Ça va.
Non mais c'est vrai,
ça passait quoi.
Non mais tu te rappelles, il mettait plus de buts encore. Hein. Si au bout de 9 journées en Allemagne, toutes les saisons, il avait plus que 12 buts. Mais ce qu'il fait là au Barça, c'est vraiment bien quoi. Et surtout parce que lui, il a eu vraiment envie de rester quoi.
Et le Barça qui réalise vraiment un très bon début de saison, ils sont au-dessus du Real assez nettement, tu dirais, ou pas pour l'instant?
Dans le jeu,
bien plus
alors dans
place.
La qualité du jeu, oui.
Ouais.
Oui, parce que le Real joue mal.
Ouais.
Le Real joue très mal. Donc,
ils ont gagné ce week-end, mais sans briller.
Ouais, c'était franchement. Ça me déçoit de voir Villarreal, qui était l'une des meilleures équipes, se faire battre finalement assez facilement par un mauvais Real et après avoir pris une branlée par le Barça. Donc, ça aussi, je pense, on est vraiment sur un duo Real-Barça. On sait déjà que la Liga est pour le Real ou pour le Barça. Parce que l'Atlético aussi est décroché, ils sont déjà à 7 points du Barça. Donc, mais ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Le match hier à la Real Sociedad, quand tu gagnes au bout de 35 secondes, je crois, au bout de 35 secondes et qu'après tu cherches pas, t'as 90 minutes pour essayer de chercher de marquer le deuxième but et que tu cherches pas, eh ben oui, tu peux te prendre un but en toute fin de match, c'est bien fait.
Ils ont marqué un but précoce à la Brentford, à la Julien Laurence, qu'on retrouve pour nous parler de Tottenham. Tottenham, Julien, encore battu ce week-end, 3-2 à Brighton, c'était, tu le disais tout à l'heure, le match du week-end, mais c'est vrai qu'on a l'impression que Postecoglou n'y arrive plus. 9e, simplement, Tottenham ce soir.
Ouais, alors ils sortaient quand même de 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Si tu veux refaire ton introduction.
Ah non, ouais,
non, mais ouais, 5 victoires de suite.
Non, vas-y.
Non, donc il y arrive un peu.
Attends.
Il y arrive pas.
Bouge pas, on va couper tout ça, on le mettra pas dans le podcast. Alors attends, bouge pas, on va leur faire 3 heures. On est pas en direct. Là, alors Tottenham qui a été battu, pourtant ça allait mieux ces dernières semaines.
Julien.
Tu vois, on l'a perdu.
Tu m'entends?
Ouais, non, on t'entend pas très bien. Je sais pas si c'est sur ce que tu dis ou pas. Tu vois, tu me contredis, ça marche plus, c'est bizarre. Tu devrais faire attention, Julien. Vas-y, retente. Non, je crois quoi.
Non, mais je disais juste que tu avais bien fait de souligner que ça marche mieux parce que t'en avais oublié.
Non, vraiment, tu. Comme quoi.
Problème technique.
Voilà, non, mais c'est une bonne leçon pour toutes les drôles de dames. Faut quand même pas trop essayer de contredire le présentateur. 21h21.
On le voit.
Un petit coup de Nico Jamin, ça fait du bien ou pas? Dans 10 minutes. Il arrive à 22h, hein, Nico Jamin, pour l'after avec Daniel Riolo et Flo Gautreau. Bah normalement la semaine prochaine.
La semaine prochaine, parce que là ça fait 3 fois.
Ah parce que là, si vous écoutez RMC, demain le retour du boss, Gilbert Bribois, et donc par jeu de chaise musicale, tout le monde va retrouver son poste. Nico Jamin, c'est drôle de dame, et moi, remplaçant. Donc ça, c'est là où je m'épanouis aussi.
Toi,
donc,
tu profites de la blessure des autres, en fait.
C'est ça, exactement.
C'est un peu notre Matteo Retegui.
Ouais, exactement. Dans 10 minutes, le dossier sur la mafia et les ultras en Serie A, les liaisons dangereuses avec Yohan Crochet, avec Daniel Riolo. Il y a la minute de polo à suivre. Et puis à 21h45, on vous attend nombreux au 32-16. Venez poser vos questions au drôle de dame sur RMC. Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel et Johan Crochet vous attendent. Juste avant de récupérer Julien, c'est le moment, 21h22, podcast. Je vous le rappelle, il y en a encore des tout frais qui viennent de sortir aujourd'hui. C'est la nouveauté de la saison. Si vous aimez vos drôles de dame, sachez que désormais, toutes les semaines, vous avez des podcasts avec chacune de vos drôles de dame. Podcast Angleterre, podcast Allemagne, podcast Italie, podcast Espagne avec chacun de vous quatre. Et
on prépare un podcast Espagne très intéressant autour de Vinicius. Que se passe-t-il autour de Vinicius? Le racisme, tout ça. Pourquoi est-ce qu'il est sifflé? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes avec les publics? Donc ça va être un podcast dédié à la relation de Vinicius avec les supporters en Espagne.
Ce sera cette semaine. L'Italie tournée aujourd'hui, Johan.
Exactement. On a parlé d'une association de la Lazio antifasciste qui essaye de changer l'image de la Lazio.
Bon courage.
Il y a beaucoup de boulot, mais ils font un gros gros travail.
Paulo, t'as fait quoi cette semaine ou fin de semaine dernière?
On n'est pas encore. Voilà, la semaine dernière, on a eu Joshua Guidavogui, ancien joueur qui a joué une décennie au VfL Wolfsburg.
Tellement sympa.
Et cette semaine, si je ne me trompe pas, on va avoir un gardien français et on va comparer les performances des gardiens français avec les, vous savez qu'il y a beaucoup de blessés en équipe nationale d'Allemagne, avec justement au niveau de la formation, etc., avec les gardiens allemands. Et il y a plusieurs sujets qui sont en préparation. J'en profite juste pour répondre à, j'ai reçu pas mal de messages cet après-midi pour ce qui se passe au Hertha Berlin avec la faillite programmée de 767 partenaires, et on est en train de préparer pendant quelques semaines un podcast spécial sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé au Hertha Berlin financièrement parlant.
Et d'ailleurs, même problème au Genoa puisque même propriétaire.
Et puis, puisque tu parles de podcast, il y a toujours le podcast des livres RMC présenté par Fred Hermel.
Ah oui, oui, c'est ça. Bah, tu peux aussi retrouver l'œil du Tib tous les week-ends dans la
Bah voilà, voilà. Bah, chacun pour sa sauce.
Et attendez, vous avez oublié, parce que tout ça, vos podcasts sont très bien, mais le meilleur des tous reste quand même l'After Angleterre, puisque on a fait avec Julien Laurence en fin de semaine dernière un très beau sujet sur Cole Palmer. Et on va retrouver Julien dans quelques minutes. Pourquoi je dis ça?
Parce que tu m'as coupé, parce que je parlais du podcast des livres RMC.
Oui.
Où Fred Hermel parle de littérature, mais sur un ton léger, tu vois ce que je veux dire? Un peu comme quand je parle de foot, je parle de livres.
C'est un peu ça la diff, quoi.
Moi, je considère que les podcasts espagnols, italiens et allemands, comparés aux résultats de la Première Ligue, qui bénéficient évidemment d'une couverture médiatique inadmissible, et très sérieux, quand même.
Merci Paulo. Merci
pour... on peut dire du mal du génie,
oui, là, c'est deux minutes. Il va revenir juste après la petite pub. Merci pour vos messages. Je vois dans le chat, vous êtes gentils. 21h25, petite pause. Et on retrouve nos quatre drôles de dames pour dire un mot de Tottenham, si on y arrive. Et les liaisons dangereuses entre Mafia et Ultra en Serie A avec Johan Crochet.
Très bonne
avec
liaison.
Daniel Rio.
Par rapport à la liaison.
Dangereuse ?
Oui.
Tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Il est 21h28, merci d'être là, j'espère que vous passez une bonne soirée sur RMC. Les drôles de dames au programme, comme tous les lundis entre 20h et 22h, Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet dans un quart d'heure. Les drôles de dames sont à vous, 21h45, vous nous appelez et vous leur posez vos questions, toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'After, où Fabinho nous dit on devrait renommer Génération After les crânes de l'After. Ouais, c'est vrai que il y a du joli crâne. Et encore, c'est encore mieux quand c'est Gilbert qui présente, même s'il rentre demain avec des cheveux. Vous verrez ça.
C'est vrai.
Ah, suspense, vous verrez
non,
ça.
Non, mais il est allé en Turquie.
Ah,
à Istanbul.
J'ai pas le droit de trop.
Ah, mais sérieux?
Pas le droit de trop en dire. faudra être là demain, à l'écoute demain à 22h pour le retour de Gilbert. Dans quelques minutes, la mafia et les ultras en Italie, comme promis avec Johan. Mais d'abord, on a retrouvé non pas la 7e compagnie, mais Julien Laurence pour nous parler de Tottenham. Julien, donc qui est en grande forme, comme on le disait tout à l'heure.
Oui, non, mais comme tu le disais tout à l'heure, 5 victoires de suite pour Tottenham, toutes compétitions confondues, c'était très bien avant ce match à Brighton et surtout une très bonne première période. Et c'était vraiment un match tellement typique de Première Ligue comme la Première Ligue sait les faire, comme on l'aime. Alors il n'y a pas que chez nous, hein, mais c'est vrai, ces matchs-là, c'est les beaux. Les Anglais ont une expression pour ça, c'est le game of two halves. Donc en fait, un match qui s'analyse dans les deux périodes, finalement, dans les premières 45 minutes et les deuxièmes 45 minutes, une mi-temps chacun, finalement. C'était vraiment ça hier. On a vu un très bon Tottenham en première période, mener 2-0, être super dominateur,
pressé très bien, contre-pressing parfait, laissé quasiment rien à Brighton, alors que c'était pourtant le match à Brighton. Et à la pause, alors qu'ils menaient 2-0, qu'ils auraient même sûrement dû mener 3-0, et qu'ils étaient vraiment, mais en contrôle total, je sais pas ce qui se passe à la pause, mais ils reviennent sur le terrain en seconde période avec des ambitions complètement différentes. Ils arrêtent de presser, ils se mettent à reculer, ils prennent un premier but à la 48e minute, et puis après ça s'enchaîne, 2-2, 3-2, Postecoglou sur son banc, stoïque, aucune réaction, pas un changement, pas un coup de gueule, rien du tout. J'ai trouvé c'est ça bizarre, tellement ça, décevant de sa part, ouais, vraiment bizarre. Alors, je suis un très très grand fan d'Ange Postecoglou, j'adore ce qu'il fait, mais on l'a souvent répété dans l'émission, malheureusement pour lui, quand il a c'est le plan A, il n'a pas de plan B, pas de plan C, pas de plan D. Quand le plan A marche très bien, parfait. Première période à Brighton, match à Manchester United il y a une semaine, tout ce qu'on veut. Mais quand le plan A ne fonctionne plus pour X raisons, il n'y a plus rien derrière. Et ils se sont effondrés, mais comme on a rarement vu ça hier, même lui a reconnu après le match, c'était inacceptable. Alors dans l'histoire de Tottenham, c'est pas la première fois, hein. C'est l'équipe d'ailleurs qui s'est fait le plus remonter après avoir mené 2-0 ou avec 2 buts d'écart en Première Ligue dans l'histoire de la Première Ligue. 10 fois déjà, donc c'est pas que lui et c'est pas maintenant. Les Anglais appellent Tottenham le Spursy. C'est devenu même une expression dans le langage courant. De quand t'es Spursy, bah c'est que quand t'es tu t'effondres, quoi. Il y a un moment où tu t'effondres et c'est ce qui leur est arrivé hier. Après, il faut donner du crédit à Brighton, à Hurtzeler, à Danny Welbeck, à tous ces joueurs-là pour avoir jamais abandonné et avoir continué à croire en eux et avoir su revenir dans ce match-là. Mais c'est vrai que le fait dont la façon dont Tottenham s'est effondré, l'effondrement de Tottenham dans la rencontre d'hier est assez inquiétant, je trouve.
Ouais. Si vous avez d'autres questions pour Julien Laurence, n'hésitez pas à nous appeler au 32-16, comme par exemple quelle est la marque de son téléphone pour que ça capte aussi mal. N'hésitez pas, vous faites le 32-16.
C'est un Scoopy. C'est même pas mon téléphone, hein. Scoopy, le Scoopy de la radio.
Scoopy, c'est un appareil qui permet notamment aux commentateurs dans les stades de se brancher et de pouvoir commenter avec normalement
un Scoopy internet.
Ah, j'ai un Scoopy qui est aussi vieux que toi, j'ai l'impression, Fredo. Hein. C'est ça,
voilà, il doit pas être en forme alors. Hein.
C'est bien ce que je te dis.
On me dit dans l'oreille que le ISDN n'existe plus donc.
Non mais ça passe par le téléphone ou ça passe par internet ton Scoopy?
Non, internet, mais pourtant.
Bah normalement ça marche bien.
Désolé.
Tu sais, en Angleterre ils n'ont pas.
Ah mais tu vois, ça fait longtemps que t'as quitté l'Espagne déjà, Fredo.
On est sur une île, hein.
Ouais, sur une île, c'est plus compliqué. Ouais.
Direction l'Italie, les gars, avec la semaine dernière cette news qui a fait grand bruit, Johan, ce coup de filet dans le milieu ultra en Italie. La police a arrêté la semaine dernière 18 ultras du Milan et de l'Inter, arrêtés soupçonnés d'avoir des liens avec la mafia. Quel lien entre les ultras et la mafia, Johan? Les liens sont forts depuis longtemps et la mafia est là dans beaucoup de strates du foot italien.
Ouais, exactement. C'est un sujet qui est délicat parce qu'il y a mille choses à expliquer. On n'aura pas forcément le temps de faire le tour, mais dans l'after plusieurs fois, quand on a évoqué des sujets autour des supporters, qu'ils soient ultra ou non d'ailleurs, j'expliquais qu'en Italie, tu parles pas simplement à des supporters, tu sais très bien à qui tu parles et que les dirigeants peuvent pas toujours faire ce qu'ils veulent. Parce que en Italie, il y a beaucoup de virages qui sont noyautés par la mafia, alors qu'elle soit, peu importe, hein, calabraise, napolitaine, sicilienne, que ce soit des clans de Rome d'ailleurs, aussi moins connus mais tout aussi présents. Parce que, en fait, il y a deux éléments clés qui les ont fait arriver là. Première chose, pouvoir, et deuxième chose, l'argent. Le pouvoir, c'est quand tu... alors attention, il faut faire très attention quand je dis qu'elle noyaute les virages, qu'elle est présente en virage. Ça veut pas dire que tous les virages sont composés de mafieux ou que la mafia est 100% des virages italiens. C'est pas ça. C'est notamment dans des cas précis de l'Inter ou du Milan, quelques personnes qui sont affiliées de près ou de loin à des clans très connus et qui, quand je dis noyaute le virage, c'est en gros... eux ce sont les chefs, les autres suivent. D'ailleurs certains sont pas spécialement au courant de tout ce que font les chefs dans certains virages et certains tombent un peu des nues comme à l'Inter où on avait un article dans la Gazzetta dello Sport cette semaine, ce week-end, qui disait il y a beaucoup de gens en cour Vanorte qui se sont dit mais attends, parce qu'à l'Inter en 2 ans il y a 2 capos qui sont quand même fait tuer, hein, ouais, de la cour Vanorte, qui ont été assassinés. Et les mecs tombaient des nues en disant comment ça, extorsion de fonds, comment ça, les joueurs appellent l'entraîneur pour avoir des billets en plus pour les revendre à prix d'or, comment ça. Donc il y a une prise de conscience aussi dans les virages italiens que ceux qui se disaient, qui se réclamaient être les premiers supporters des clubs, ceux qui avaient le club dans le sang étaient peut-être là pour d'autres raisons, et notamment le business, parce que aujourd'hui les, pour faire simple hein, et schématiser un peu, l'un des plus gros business des de la mafia en Italie de manière générale, c'est le trafic de drogue. Quiconque est déjà allé, notamment dans les années 2000, dans les virages, a vu que les petits sachets, on les vendait sans aucun problème dans les virages, et que c'est les mecs qui récupéraient l'argent, que certains déplacements servent à transporter de la drogue. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Et ça, c'est le business, on va dire, de la mafia classique, pas forcément lié au football. Et ensuite, pourquoi le football et le virage attirent aussi la mafia ? Parce que il y a un business qui est très juteux, c'est la revente de billets. Il faut savoir qu'en Italie, il y a beaucoup de clubs qui sont un peu, qui sont vérolés, ou en tout cas des dirigeants qui sont mis sous pression et sous menace de certains supporters pour avoir des billets. Alors avant, les billets c'était pour en faire plaisir un peu à tout le monde et les donner. Là aujourd'hui, c'est pour les revendre à prix d'or. Et pour générer de l'argent, un billet que on touche à 140 euros, il va être vendu 700 euros. Vous multipliez par le nombre de gens en tribune, par le nombre de matchs dans l'année. Par exemple, contre André Agnelli de la Juve, président de la Juve,
dans ma tête, ça fait beaucoup d'argent.
Ça fait beaucoup d'argent. A décidé de porter plainte contre certains membres de son virage pour extorsion parce qu'il était menacé. On lui disait si tu nous files pas des billets, nous on va foutre le feu à ton stade. On va faire des cris racistes comme ça, ton stade il sera fermé. On va siffler tes joueurs comme ça, ça instaurera un climat très difficile. Il faut savoir qu'à la Juve, on avait estimé le butin par an à 1,5 million d'euros. Juste sur les billets. Vous rajoutez à ça la gestion des parkings aux alentours du stade. Vous rajoutez à ça le, quand tu vas prendre ton panino avant le match, ou tu vas acheter une écharpe du match, soit c'est directement géré par ces clans-là, soit c'est une redevance. En gros, t'as le droit d'être là, mais par contre, pour être à cet endroit-là, bah, tu vas nous donner un petit peu d'argent.
Un petit pource.
Chaque soirée, un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Bref, c'est très compliqué. Et aujourd'hui,
alors juste parenthèse, on continue bien sûr, mais à 21h37 et sur ce sujet qui lui tenait à cœur, Daniel Riolo nous rejoint dans Génération After spécial Drôle de Dame. Salut Daniel.
Salut les amis.
Salut Daniel.
Je voulais pas rater ça.
Bah oui,
Johan le sait. Hein,
exactement.
Je l'ai chauffé ce week-end.
Exactement.
Et puis Thibaut t'a teasé depuis une demi-heure et j'étais à deux doigts, comme t'étais pas là, je disais bon, on aura David Beckham à 21h57, Roberto Baggio à 22h20, voilà.
Ouais, ça y est, tu déflores toutes nos surprises aussi.
Exactement. Non mais
ça, c'est toi qui m'as demandé en plus.
Oui, évidemment, mais comme je te voyais pas.
Message et tout, tu m'as dit vas-y, viens avant lundi et tout.
Il voulait te protéger par quelqu'un, alors qu'il parlait de la mafia, c'est pour ça. Il a besoin d'un garde du corps. C'est pour ça.
Non, c'est juste que si dehors, vous savez pas ce qui tombe.
Ah, ok.
Et ça explique mon retard. J'ai un déluge, mais c'est incroyable. Ah, on attend plus que Noé, là.
Après, ça va se déplacer sur les pouilles jusqu'à la fin octobre.
Arrête,
pour le voyage de monsieur Jean Grande. Non, mais tout ça pour dire que, ça s'est monté un petit peu, ces derniers jours parce que après le deuxième assassinat d'un membre de la Curva Nord, d'un des chefs de la Curva Nord, par un autre chef de la Curva Nord pour des histoires de business, de pouvoir et de contrôle du business de la Curva Nord. Évidemment, les autorités italiennes se sont intéressées à tout ça et ont arrêté une vingtaine de personnes des virages du Milan et de l'Inter. Rappelons quand même qu'il y a quelques années, je crois que c'était 2019, il y a Diabolik, le fameux leader des Irriducibili, irréductible groupe d'extrême droite de la Lazio qui s'est fait buter une balle dans la tête dans un parc, le parc des Aqueducts à Rome, que doit connaître
ça
Daniel.
Ça s'appelle buter, ouais, ça.
exécution totale en pleine journée et que après les autorités italiennes ont fait des saisies dans le business de Diabolik. Il y en avait pour une centaine de millions d'euros en drogue, en hashish, en cannabis, en cocaïne, en héroïne, tout ce que vous voulez.
Ah ouais.
C'est pour ça que c'est très difficile. Et surtout, c'est très difficile de les contrer. Mais de manière générale, là, on parle de stade, mais on pourrait parler de la société italienne. C'est très difficile de les contrer parce qu'ils sont partout, parce qu'il y a un maillage qui est très important, parce qu'ils sont malins, parce qu'ils ont une puissance financière qui est énorme, parce qu'ils infiltrent même les autorités italiennes, la police,
justement,
la justice,
quand il y a des coups de filet, quand il y a des coups de filet, quand la semaine dernière, est-ce que Johan, Daniel, vous pensez qu'on on est sur un
c'est
vrai,
une goutte d'eau, là, c'est une goutte
d'eau. Ça, c'est une goutte d'eau, ou qu'on est sur un vrai début de ça va changer en Italie.
Non, mais c'est comme toujours quand t'as des coups de filet dans la société sur des business de mafieux, tu te dis ouais c'est cool, ça en fait toujours ça de moins, mais derrière ça repousse comme les mauvaises herbes, donc. C'est la situation est très délicate. Ça sera très difficile de contrôler les virages italiens. Même ceux qui ont essayé ont eu des difficultés. Par exemple, Lotito à la Lazio. Quand Cragnotti a passé la main à Lotito, ancien propriétaire versus nouveau propriétaire de la Lazio, Lotito a dit, alors pas pour des raisons je suis contre la mafia, lui c'était plutôt parce que c'est Picsou, donc tout ce qui est je donne de l'argent ou je donne des billets, c'est hors de question. Mais il a dit aux membres de la Curva Nord de la Lazio, hors de question que je vous donne des billets, moi. Je vais pas vous donner des billets. Ben, le mec, ça fait 20 ans qu'il est sous protection policière.
Mmh. Alors, une question importante, c'est-à-dire, tu dénonces, enfin, on est allé vous dénoncer un système mafieux parmi les ultras,
oui.
Ou c'est vraiment...
Oh, oui.
Est-ce qu'il y a... C'est un système mafieux ou c'est vraiment la mafia qui contrôle
non,
ça
non, non,
c'est
non,
la,
non,
c'est
non,
vraiment
non.
La, c'est la mafia.
C'est la mafia.
Il n'y a pas
c'est les clans connus de la Drangheta, de la Camorra.
Est-ce qu'il y a des groupes indépendants parmi les ultras qui font leur business et qui ne sont pas dans la mafia? Ou c'est vraiment... parce qu'au-dessus, il y a la mafia.
À partir du moment où tu as une économie, il apparaît évident que des gens se disent on va aller taper
donc
dans cette
mafia,
économie.
Donc quoi qu'il arrive, les grandes mafias ils sont quoi.
C'est pas forcément la grande mafia. J'espère que vous savez quand même qu'il y a beaucoup de tribunes en France qui fonctionnent de la même façon. Sauf que c'est peut-être pas à ces niveaux-là. Mais il y a énormément de tribunes qui fonctionnent comme ça et des ultras
C'est un système mafieux.
Parfois c'est du bricolage quand tu vends, quand tu revends des places. Ou des t-shirts, ou que tu croques sur les déplacements, la location des bus, que tu contrôles qui peut rentrer, qui peut pas rentrer, t'es dans un système qui est à peu près équivalent. Après, la culture en France des tribunes est peut-être un peu moins développée, donc tu as peut-être moins de choses, mais il y a quelques stades en France qui fonctionnent de cette façon-là, sauf que c'est des sujets qui sont pas beaucoup abordés dans les médias. Et
je veux dire en France.
Ouais, je comprends, bien sûr, et je comprends pourquoi. Parce que c'est dangereux. C'est peut-être le seul truc qui est véritablement dangereux pour les médias aujourd'hui.
Waouh, t'es en train de mettre une ambiance sur ce plateau.
Moi je sais que j'ai toujours dit qu'il y a plein de trucs que je savais sur les tribunes que je dirais jamais.
Ah ouais?
Bah oui, je suis là pour parler de foot. Ouais. J'ai pas envie que ça, tu vois, que ça tourne mal.
Mais ça m'arrange pas ce soir en tout cas. Attends le lendemain, Gilbert.
Non, il y a plein de trucs.
Il y a
plein de trucs, rien sur les présidents, les joueurs, les machins, tout. Je m'en fous. J'ai jamais eu peur de rien de tout ça.
Un peu la LFP sur
Twitter
peur,
et tout, mais ça non. Je sais trop d'histoires. J'ai entendu trop de trucs. Non.
Et les autorités alors en Italie, parce que j'avais dit que le sujet est passionnant.
Ah ouais,
Il y a eu des arrestations, ça veut dire que la justice italienne vraiment décide de nettoyer. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique réelle? Parce que les politiques aussi se servent de la mafia pour les campagnes. Donc
on a vu des ministres fricoter avec des leaders de certains virages dont on sait que ils trempent dans le trafic de drogue. Si vous prenez un Matteo Salvini qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. Et qui fricote avec le leader de la Curva Sud de Milan. On sait très bien que Luca Lucci, c'est compliqué. Mais
ok.
C'est un sujet qui est difficile parce que.
Bah, t'es quand même au courant qu'à Marseille, les couleurs d'affiches des campagnes électorales viennent des tribunes quand même.
Bah oui. Bah, bon. On sait très bien ce qui s'est passé sous les années tapis. Bon, sur la gestion des billets. Bah oui,
et à Paris, c'est passé des trucs complètement folles aussi. Et les relations entre les directions des clubs et les groupes de supporters. Elles sont.
Pardonne-moi. Tu crois qu'en Espagne,
à Lyon aujourd'hui, ou qu'est-ce qui s'est passé pendant des années, c'est les tribunes.
Et tu crois qu'en Espagne, comment ça se passe? Ce qui s'est passé, je veux dire, quand Joan Laporta a viré les ultras pendant un an, lui et sa famille ont été sous protection policière, et quand Florentino Pérez au Real a viré les ultras sourds. La tombe de sa femme était profanée. Et il était sur protection. De toute façon, il est toujours protégé, lui, parce que c'est un grand patron, il est toujours protégé. Donc, quand on veut, on peut, mais c'est très dangereux.
Oui, mais le premier qui avait compris.
Merci de l'avoir ouvert ce soir.
Le premier qui avait compris en Italie. Non, juste 10 secondes. Premier qui avait compris en Italie que les virages étaient une source pour eux de vote, etc., en Italie, c'est Berlusconi. Berlusconi, dans les virages italiens au début des années 2000, tu voyais les mecs tractés pour Forza Italia.
Dans un instant, les drôles de dames sont à vous au 32-16. Alors, posez pas toutes les questions qui fâchent quand même. On va pouvoir sortir tranquillement et partir en week-end. Daniel Riolo, Fred Hermel, Johan est là également, Polo et Julien en direct jusqu'à 22h. Bah, fais le 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Avec les drôles de dames, comme tous les lundis soirs entre 20h et 22h, dans un peu plus de 10 minutes, c'est l'after. Nico Jamin, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec vous jusqu'à minuit. Toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'after. Dans un instant, les drôles de dames sont à vous. 32-16. Vous pouvez poser vos questions à Julien Apollo, à Fredo et à Johan. Mais d'abord, la dernière minute du soir, la minute de Polo. Kommen geh ich immer nur bei Nacht, weil ich so nichts in Farbe sehe und verdrängt tut alles nur halb so deutlich. Aber wenn der Sonnenaufgang am Morgen Licht ins Dunkel bringt und mich neben mir die nackte Wahrheit im Bett in die Knie zwingt.
Berk, Rote Flaggen, les drapeaux rouges. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette musique?
C'est que ça a l'air très bien. La je semaine, pas, ça a l'air très bien, Polo.
Il a 19 ans, il a 19 ans le gamin et moi il m'a bluffé. Mais c'était une chanson de l'année dernière d'ailleurs. Il a d'ailleurs fait un concert avec un concerto qui était assez exceptionnel. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? C'est que la semaine dernière a eu lieu, vous savez, le système associatif allemand fait qu'on se réunit une fois par an. Ça s'est passé à Berlin au stade pour et le président Zingler de l'Union de Berlin a annoncé évidemment que l'Alte Försterei, le stade, allait se découvrir des nouvelles capacités puisqu'on va passer à plus de 40 000 places. Je rappelle qu'à l'Union de Berlin en ce moment on a 22 000 places et qu'il faut une loterie parce qu'il y a tellement de demandes que c'est pas possible. Donc on va monter à plus de 40 000 places normalement, dont 32 000 places debout, ce qui est un peu une révolution et qui va peut-être dans le sens de ce que disent certains décideurs en ce moment, et en tout cas loin de ce qu'on a entendu depuis 20 ans. Et ce qui est intéressant, c'est quel est le moyen de financement? Eh bien, le Union Berlin souhaite lever 60 millions d'euros liés à des actions qui sont réservées à des personnes comme moi, qui sont membres de l'association d'Union Berlin. C'est pas gratos, hein, c'est 500 euros l'action, donc c'est pas donné. Dans une logique de lever ces 60 millions d'euros, ce qui permettrait d'avoir la majorité absolue dans le cas où l'association détient ses actions, et en gros à peu près 40 millions pour des différents actionnaires, dont des sponsors, etc. C'est une nouvelle façon de financer son stade, je trouve. Il y a sûrement déjà des cas qui ont existé dans le monde. Et ça commence au mois de décembre. Et donc, à partir du 1er décembre, je serai sûrement propriétaire d'une partie du nouveau stade qui devrait être fini en 2029 ou 2027, j'ai oublié. Donc, c'est important parce que ça permet d'éviter... on a souvent des débats, comment doivent évoluer les stades, et ceci et cela. Et si les membres de l'association sont majoritaires, on peut pourra éviter d'avoir forcément, j'ai envie de dire, des excès de certains sponsors ou tout, qui veulent faire des choses dans les stades. Donc voilà, c'est à partir du 1er décembre. 500 euros l'action, quand même, c'est pas donné.
C'est clair. Merci Polo pour cette belle minute. Tiens, dites-nous dans le chat quelle minute vous avez préférée musicalement parlant. J'ai bien aimé celle de Polo, mais ce soir le petit son italien du Juan m'a fait voyager. J'étais déjà dans les pouilles. 21h50, 32-16, vous posez vos questions à nos drôles de dames. Et il y a Yannick qui est là et qui nous appelle, qui a une question pour Fred Hermel. Salut Yannick.
Bonsoir messieurs.
Hola Chico. Ça va Yannick?
Ça va très bien, ça va très bien.
Bon, t'as une question pour Fredo alors.
Alors, c'est une question un peu à tiroir, un peu compliquée. Ça concerne Dani Carvajal, qui s'est blessé dramatiquement dans la dernière minute du match. Donc, c'est un drame, on va pas revenir dessus. Moi, je voulais parler un petit peu de l'avenir, un petit peu de ce qui se prépare. Bon, il y a Lucas Vázquez. Moi, je pense pas que ça soit Lucas Vázquez le remplaçant pour les gros matchs. Je partirais plutôt sur un Mendy qui va changer de côté avec le retour d'Alaba, éventuellement, ou Camavinga à gauche. Ouais. Et moi, je trouve que ça pose beaucoup de problèmes, cette perte, parce que ça désespagnolise l'équipe un petit peu, parce que mine de rien, c'était le dernier vrai espagnol de l'équipe. Ce qui est quand même au Real, on parle, c'est une équipe internationale, c'est pas comme le Barça où il y a toujours eu beaucoup d'espagnols, mais il y en a toujours eu deux ou trois qui avaient des rôles très importants. Ça enlève un peu, on va dire, le rôle, un garant de l'institution.
Donc, quelle est ta question? Parce qu'il faut laisser la place aux autres aussi. Quelle est ta question alors?
Pardon, c'est savoir ça en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va essayer de le remplacer? Est-ce qu'on va essayer de le remplacer par un espagnol?
Okay. La blessure est terrible. C'est-à-dire, il y a trois blessures au genou, dont ligament croisé, tendon. Enfin, c'est un truc. Les médias espagnols ont consulté le grand spécialiste de ce sujet. C'est minimum un an pour qu'il revienne.
Daniel Riolo.
Non, c'est quoi?
Non, parce qu'il il a une deuxième carrière de chirurgien, on ne sait pas.
Ah oui, pardon. Ah oui,
excuse-moi. Non, c'est pas lui, pardon. Non.
Oui, j'ai vu passer. Non, mais Dani Carvajal, donc c'est un an pour qu'il revienne. Et d'après ce médecin, il y a 50% de chances qu'il ne puisse jamais retrouver le même niveau.
Ah donc, oui. Ce qui se passe, c'est terrible pour lui, pour un joueur qui a 32 ans. Donc, c'est très compliqué. Oui, alors moi, je pense que c'est la pire blessure qui pouvait toucher un joueur du Real. C'est le pire joueur, c'est le joueur qu'on ne peut,
irremplaçable.
Irremplaçable. Déjà, parce que c'est le capitaine. Et comme l'a dit notre auditeur, son prénom, c'est,
Yannick.
Yannick. Tu as tout à fait raison. C'est l'Espagnol. Il était formé au club. Moi, j'étais là le jour où il a, quand il avait 14, 15 ans, où il a posé avec Di Stefano la première pierre de la, du centre d'entraînement du Real, de Valdebebas. Donc, c'est quelqu'un d'essentiel. Donc, en plus, il a un super niveau. Donc, le Real. Oui, Lucas Vázquez, qui est un ailier droit reconverti par Zidane, latéral droit. Lucas Vázquez va faire le boulot jusqu'à Noël. Mais ils vont devoir recruter. Ils vont devoir recruter parce que c'est pas possible. Il y a une possibilité. C'est d'avoir Militao latéral droit. Militao, quand il était au Portugal, il avait déjà à ce poste. Et au Real, il a joué 3 matchs la saison dernière à ce poste. Donc ça peut être une possibilité. Mais pour l'instant, l'urgence, c'est Lucas Vázquez. Mais ils vont tout faire pour recruter au mois de janvier. Et c'est vraiment, c'est, j'insiste, c'est la pire absence possible pour le Real.
Voilà Yannick.
Merci Yannick. Ouais.
Merci à toi.
Mendy peut jouer à droite, je crois. Hein.
Il est très parce que tu parles d'Alaba, mais Alaba, on ne sait pas quand il va revenir. Hein. Il n'a pas encore repris l'entraînement.
Merci d'avoir été là, Yannick. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Bye bye. Tiens, juste avant de prendre Kimo qui nous appelle au 32-16, on nous demande dans le chat ta musique, Polo, le nom de ta musique. Tu vois, t'as des défenseurs. Tu l'as.
Rote Flyon, les drapeaux rouges, Berk.
Voilà. Kimo nous appelle au 32-16. Salut Kimo.
Bonsoir à tous.
Bienvenue. Salut. Dans Génération After, drôle de dame. Question pour Polo, tiens, Kimo. C'est pas sa musique.
Polo. Alors, Polo, on en a parlé plusieurs fois d'un joueur. L'année dernière, on a échangé longtemps. Tu n'étais pas du tout convaincu par le joueur. Pour toi, il a fait une très bonne saison. Il y a 3 semaines, on en a parlé. Il a encore. Il est en feu en ce moment. Ce soir, tu parles du Bayern et tu parles même pas de l'homme qui a transformé le match hier pour Francfort, Omar Marmouche.
Omar
Arfouche.
Non, mais déjà, j'ai pas cassé Marmouche, l'Égyptien. Mais déjà, je l'ai pas cassé. J'ai dit que c'était un joueur d'une saison et il a joué en seconde division. Il a échoué à Wolfsburg. Il a déjà 25 ans. Il a réussi cette année, l'année dernière, à mettre 12 buts. Je vais pas m'emballer pour quelqu'un qui met 12 buts non plus, quoi. mais si tu veux, moi, en fait, c'est pas que ça me déplaît, mais si tu veux l'individualisation des joueurs de football, ça va à 5 minutes. Moi, ça me fatigue au bout d'un moment. Mais si tu veux, je suis tout à fait d'accord pour te dire qu'il porte l'Eintracht comme Ekitike d'ailleurs cette saison à Francfort, mais de là à en faire quelqu'un d'exceptionnel alors qu'il va très vite et qu'il est dans son prime en ce moment, mais très bien, sauf que il faut aussi mettre Top Müller qui lui dit toi va jouer là-bas, parce que si j'ai critiqué entre guillemets le Bayern et ce que fait Vincent Kompany en ce moment, c'est parce qu'il laisse des espaces derrière et c'est pas admissible à ce niveau-là, au-delà du fait de se prendre un but à la 98e, si je me rappelle bien, le 3-3, t'as pas le droit quand tu domines de cette façon-là. Ensuite, tu me dis Marmouche, ok, tu l'as vu Marmouche lors de la première journée d'Europa League?
Tu regardes pas les matchs de Francfort, c'est pas possible. Là, il y a un petit peu tout le monde.
D'accord, mais oui, c'est j'ai jamais vu.
Non, mais franchement, je pense que tu regardes pas les matchs de Francfort. Vraiment, il y a un problème.
Mais crois ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Et même ce soir, tu n'as même pas dit un mot, alors que tout le monde en parle, t'es spécialiste du foot allemand. Donc, c'est vrai.
Non, après, Kimo, là, c'est parce qu'on a choisi de partir sur d'autres sujets, quand même.
Mais tu as raison, je regarde pas Marmouche, t'as raison.
Non, mais que Polo ne regarde pas Marmouche, peut-être, mais les sujets, fais-nous confiance, quand même.
C'est pas une critique, hein. Vraiment, c'est
non. Juste un c'est un compliment, en fait. Bah, j'ai pas dû manquer un match de Francfort depuis 15 ans, mais t'as raison. Il dit que je regarde pas les matchs, Panquier. Il y a des mecs à Dortmund aussi qui disent que je regarde pas Dortmund, mais t'inquiète pas. J'ai l'habitude, quoi.
Ouais. Kimo, merci.
Par contre, tu vois, l'histoire de Francfort, je suis sûr que je la connais plus que toi, tu vois. Allez. Je la connais par cœur.
Merci pour la bonne ambiance de fin de soirée. Salut Kimo, à bientôt. Merci d'avoir été là. Waouh, on finit l'émission.
Après la mafia, ils nous ont énervé Polo, là.
Ah non.
Mais il a raison, Polo.
Je vais pas envoyer des cœurs pour Polo dans le chat. Je peux pas rendre l'antenne comme ça, c'est pas possible.
Son prénom à l'auditeur, c'est S.
C'était quoi?
S, son prénom.
Non, pourquoi?
Ok.
Et Daniel, donc dans l'after dans un instant, forme monumentale, vous l'avez compris, avec Florent Gautreau, avec Nico Jamin.
C'est pas encore arrivé jusqu'à lui.
Non.
Esquimaux, bah si.
Ah, quand même.
Merci. Bon, ça y est. Je suis allé au cinéma quand j'étais petit.
Merci mes drôles de dames. Johan Crochet, Fred Hermel.
Peut-être t'as pas connu toi quand on mangeait des esquimaux au cinéma.
Non, le cinéma, c'est notre époque ça.
Ouais, ouais.
Puis comment on l'appelait,
c'est pas sûr qu'on a le même cinéma.
L'ouvreuse, on l'appelait.
L'ouvreuse.
Avec le panier en osier, avec les chocolatis et les
esquimaux. Ah, mais si, j'écoute, ça existe encore ça.
Ben non.
Bon,
ça existe encore ça.
Mais ça existe plus.
L'ouvreuse avec le panier en osier et les chocolatis.
Grand Rex ou truc comme ça, je pense que ça existe encore.
Bah non, mais non.
Merci les gars, merci à Antoine et à Polo en régie dans un instant. L'after, Daniel Riolo, Nico Jamin, Flo Rupo, excellente soirée sur RMC, ciao.